Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Très vite, j'ai connu cette espèce d'ascension sociale et financière, on va dire, avec une vie parisienne très, très, très mouvementée, très riche, c'est pas le terme, parce qu'aujourd'hui, je l'utilise pour qualifier d'autre chose, mais en tout cas, une vie parisienne très remplie. De beaucoup de travail, de beaucoup de fêtes, de beaucoup de paillettes. Voilà, j'étais vraiment rentrée dans ce cercle vicieux, je peux le dire, parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en étais un petit peu prisonnière et que je m'étais éloignée de moi-même. Je m'étais éloignée de mes aspirations profondes. Je me suis rendu compte que je me connaissais pas, que je n'avais pas vraiment été suffisamment à l'écoute de moi. Et je n'ai pas la sensation de travailler. Tu vois, aujourd'hui, ce que je le fais avec une joie incroyable. Aujourd'hui, j'utilise tout mon être. J'utilise mon corps, j'utilise mon cœur et j'utilise ma tête dans ce que je fais au quotidien pour les autres. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'utilisais que ma tête.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a quelques temps, une personne de la communauté de Pourquoi pas moi m'a parlé de Marie-Mila afin que je l'interviewe dans le podcast. Un grand merci Stéphanie pour cette recommandation. Alors que Marie voulait son autonomie à tout prix à 18 ans, elle se donne les moyens de ses ambitions en reprenant ses études pour faire une école de commerce. Elle commence une brillante carrière de marketing dans l'industrie pharmaceutique jusqu'à ce qu'elle fasse un premier burn-out. Elle fonde alors une agence dans les études marketing où elle fera son deuxième burn-out. C'est à ce moment-là qu'elle entreprend un voyage qui va changer sa vie. Aujourd'hui, Marie est sonothérapeute. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Mila.
Bonjour Marie.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Ouais, alors mon objet, c'est un bol tibétain. Un bol tibétain que j'ai acheté au Népal, la toute première fois où j'y suis allée. Et qui représente vraiment l'objet de ma transformation, de mon changement de vie, à la fois par son origine géographique, mais aussi par la finalité de ce qui me permet de faire et encore aujourd'hui, puisque la sonothérapie est devenue mon métier.
Alors avant qu'on parle de tout ce grand changement dans ta vie, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Waouh, où est-ce que j'ai grandi? Je suis née à Compiègne dans l'Oise. C'est une ville que j'ai finalement découvert que bien après 30 ans, puisque mes parents sont partis quand j'avais 6 mois. Donc je sais que je suis née à l'orée d'une forêt, avec vraiment à proximité des arbres et de la nature, mais je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps. Et puis ensuite j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai grandi à Hyères, et puis à Cannes. J'ai fait toutes mes études à Marseille. Et puis, mon bac en poche, j'ai commencé un petit peu à avoir envie d'autres choses. J'ai commencé un petit peu à voyager. J'ai passé un an en Angleterre, je suis revenue. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mes études tout en voyageant un petit peu. Et puis, suite à ça, il y a eu Paris, comme beaucoup de personnes, après un cursus d'école de commerce au final, même si je voulais être
Justement, alors
médecin à
je te mets en
une...
pause, je te mets, on, ça on va y revenir juste après sur le choix de comment ça s'est passé par rapport au choix de tes études. Juste quand tu étais une petite fille, tu étais quoi comme type de petite fille?
Comme petite fille, j'étais une petite fille plutôt introvertie, même si je pouvais paraître extravertie et très, très dynamique en jouet. Je pense que j'ai quand même une nature plutôt introvertie, avec un monde intérieur très riche. Voilà, je m'inventais des personnages, des compagnons dans ma tête, etc. Je me mettais des challenges. Voilà, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup. J'avais la réputation d'être une intello. C'était un petit peu l'image qu'on m'avait donnée à l'école primaire et surtout au collège quand je suis arrivée à Marseille, justement. Où là, moi, j'avais de bonnes notes et sans trop forcer, je dois avouer. Et en fait, ça m'a valu un petit peu cette étiquette d'intello à lunettes. J'avais des grosses lunettes en écaille comme ça et j'étais assez régulièrement première de la classe. Et voilà, je faisais exprès de faire quelques fautes à la fin de mes devoirs de maths pour être sûre de ne pas avoir une note extrêmement bonne. Voilà, donc c'était voilà
Pourquoi?
l'image. Parce que j'avais du mal à assumer un petit peu ce positionnement. Puis tu sais, quand tu as 12, 13, 14 ans, être la première de la classe, c'est rarement une qualité. Donc j'essayais un petit peu de me fondre dans la masse tu vois, et je n'avais pas du tout envie de me démarquer par ça. Donc voilà, en essayant d'être un peu dans la moyenne, mais restant quand même voilà, un peu haut, ça me paraissait plutôt pas mal. Voilà, jusqu'à ce que ça s'équilibre, parce qu'après au lycée, c'était un petit peu différent, les facilités se sont un petit peu, comment dirais-je, atténuées.
Et du coup, au moment de choisir tes études, ça s'est passé comment pour toi?
Alors, au moment de choisir mes études, ouais, ça a été un grand dilemme. En fait, assez vite, j'ai ressenti le besoin de partir de chez moi. En fait, à l'âge de 18 ans, il fallait que je parte de la maison
Attends,
pour.
je te coupe, j'entends un bruit de fond. Est-ce que
Écoute,
c'est...
moi aussi.
Est-ce que c'est à la porte, la fenêtre qui est ouverte ou... Non, c'est
C'est
passé.
dans la rue. Excuse-moi, je vais aller fermer la fenêtre. Et oui, j'habite en appartement maintenant. Pas en maison. Ouais, j'habite en appartement, je ne suis plus en maison et ben, du coup je dois vivre avec les bruits de
Des voisins.
l'environnement, des voisins, de la ville. Là en l'occurrence c'est le camion qui nettoie la rue en bas de chez moi. Voilà.
Les petits aléas du direct. Du coup, tu disais que c'était un grand dilemme pour toi, le choix de tes études.
Ouais, ça a été un grand dilemme parce que à l'âge de 18 ans, j'ai ressenti le besoin viscéral de partir de chez moi. Pour des raisons de famille, des raisons personnelles, et en fait, voilà, c'était presque vital pour moi de partir de la maison. Et à cette époque, depuis très petite, depuis ma toute jeune adolescence, j'avais envie de devenir médecin, et plus précisément pédopsychiatre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et en fait, très vite, après le bac, à l'âge de 18 ans, eh bien, je me suis rendu compte que faire médecine tout en travaillant à côté, parce qu'en fait, j'avais été obligée de prendre un petit boulot pour payer un loyer et gagner mon indépendance, était très compliqué. Médecine et travailler en même temps, voilà, c'est pas simple, surtout les premières années. Donc, je me suis orientée d'abord vers la fac de bio à Marseille, à Saint-Charles. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je me souviens, j'étais en TD, on faisait de la physique, on était sur les couches de protons. Et là, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ça concrètement dans ma vie, mis à part être prof de bio un jour, peut-être travailler dans un laboratoire entre quatre murs derrière un microscope, et en fait, c'est pas pour moi. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement, je crois que c'était un mois que j'étais à la fac. J'étais en TD, et puis en fait, j'ai décidé de. Je suis partie brutalement en plein milieu du TD. Et je me suis dit, non, va pas plus loin, tu perds ton temps. Donc, suite à ça, je suis partie un an en Angleterre. Je fais une année de césure. Voilà, j'ai travaillé, j'étais jeune fille au pair. Enfin, j'ai fait plein de petits boulots en Angleterre pour ne pas perdre mon année et avoir une expérience utile. Et quand je suis revenue, voilà, c'est là où je me suis dit, ben, tu peux pas faire tu voulais faire médecine, tu vas le regretter toute ta vie. Donc, je me suis inscrite à 19 ans, du coup, en fac de médecine. Et puis là, très rapidement, je me suis confrontée à la concurrence qu'il peut y avoir la première année en fac de médecine, les écuries, et cet esprit de compétition qui n'est pas du tout mon esprit, et puis qui, du coup, m'a vraiment pas emballée. Et très rapidement, je me suis posé des questions que je ne m'étais pas posées. Donc, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. À l'époque, si je voyais une goutte de sang ou quelqu'un qui allait mal, je tombais dans les pommes directement. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tant d'efforts? Pourquoi, voilà? Je faisais plus de sport, je voyais plus mes amis, enfin voilà. Et finalement, pour faire un métier qui peut-être ne te correspond pas complètement.
Donc là, tu travaillais en parallèle pour payer ton loyer encore?
Et là, je travaillais en parallèle, ouais. Là, je travaillais en parallèle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, bon, très rapidement, la même façon, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois lucide et que j'opte pour autre chose. Et donc, j'ai transformé le boulot que j'avais à l'époque. J'étais vendeuse chez Sephora, pour ne pas les citer. Et j'ai transformé ce contrat en contrat d'alternance. Et donc, j'ai basculé. Je suis partie de médecine et j'ai fait, pour commencer, un BTS action commerciale en alternance à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'avoir un bac plus 2 tout en travaillant, en pouvant payer mon loyer, en étant autonome, indépendante. Voilà. Ce n'était pas une aspiration profonde pour le coup, le commerce, loin de là, mais ça m'a permis de pouvoir être autonome, d'avoir un diplôme. Et puis, c'était un petit peu la voie royale, un petit peu chez moi. On me disait que, en tout cas dans la famille, avec un diplôme de commerce, tu trouveras toujours du boulot, tu pourras toujours faire quelque chose, etc. etc. Donc, c'était
Tes parents, ils faisaient quoi comme travail?
Mon père a toujours été dans le domaine de l'hôtellerie et de la cuisine. Il a travaillé dans des grands hôtels parisiens, dans des grands restaurants parisiens, une grande partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne voyait pas mon frère grandir. Et donc, il a choisi ensuite d'enseigner. Donc, il est devenu prof en lycée hôtelier. Et ma maman a commencé instit et ensuite, elle est devenue cadre dans le monde de la banque. Voilà, c'était une des premières femmes cadres de banque en France. Parce que c'était un métier qui était réservé aux hommes à cette époque-là. Et voilà, donc elle a fait.
Et quand tu parles de ton papa, c'était ton petit frère ?
Mon grand frère.
Et ton grand frère, d'accord.
Ouais. Et donc voilà, donc moi j'ai toujours connu mon papa en fait, travaillant dans le domaine de l'hôtellerie. Ouais.
Ok. Donc là, du coup, tu fais ton BTS en alternance ?
Voilà, je fais mon BTS en alternance et puis je me dis, bon, c'est quand même dommage, tu as peut-être t'as des possibilités, des facilités au niveau des études, tu pourrais peut-être continuer un petit peu. Donc là, j'ai passé les concours d'entrée en école de commerce et j'ai poursuivi mon cursus donc avec Catch Business School, anciennement ESC Marseille. Où je suis sortie 3 ans plus tard avec un bac plus 5 dans le commerce.
Et là, tu avais pu continuer, l'alternance existait déjà à l'époque, parce que bon, aujourd'hui, maintenant, l'alternance est hyper répandue, mais tu dois avoir 2-3 ans de plus que moi, mais à l'époque, l'alternance, ça, c'était quand même quelque chose qui n'existait pas en école de commerce.
Non, et pour le coup, comment j'ai fait? Non, j'étais pas en alternance, j'ai fait financer, j'ai fait un emprunt. Okay. J'ai fait un emprunt pour payer l'école, qui en plus n'était pas donnée. Voilà, hein, ce n'est pas des écoles publiques. Donc j'ai investi sur moi-même et j'ai fait un emprunt à la banque. Ouais,
que ça t'a pas fait peur?
5 ans. Ça m'a fait un peu peur, oui et non. Oui et non, c'était un petit peu comme. Ouais, comme une évidence que voilà, il fallait que je me fasse confiance et que j'allais réussir à le rembourser. Et puis on m'avait tellement mis dans la tête de toute façon qu'avec un diplôme de commerce, je pourrais faire tous les métiers que je voulais et gagner ma vie, que finalement, non, j'ai pas eu plus peur que ça. Et c'est quelque chose que j'ai répété quelques années après quand j'ai monté ma propre société. Où là, pour le coup, j'avais pas peur, mais tout le monde autour de moi a eu extrêmement peur. J'ai fait un petit emprunt à la banque pour monter ma société. Et là, oh, mais t'es sûre, tu te rends compte, si jamais ça marchait pas, si tu peux pas rembourser, etc. Donc il y avait plein de petits doigts autour de moi qui me disaient, oh là là, qui me renvoyaient les peurs extérieures. Et puis voilà. Et puis encore une fois, ça s'est passé quand j'ai vendu ma boîte aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'était clair, c'était précis, il fallait que je vende cette société et que je me libère. Et beaucoup de voix à l'extérieur me disaient « Mais t'es sûre, ta société marche super bien, tu devrais être super fière de ce que tu as créé quand même, t'es sûre que tu ne veux pas la garder, etc. » Donc, ça me faisait beaucoup de brouhaha dans la tête. Et voilà, j'ai fini par la vendre et m'en libérer, changer de vie. Mais voilà, je crois qu'il faut essayer d'écouter sa petite voix intérieure et se faire confiance, ouais.
Ça, c'est sûr. Et donc là, du coup, tu fais l'école de commerce. À la fin de cette école de commerce, c'est quoi, du coup, tes projets?
À la fin de l'école de commerce, projet, c'est travailler, gagner sa vie aussi, hein, parce que j'avais un emprunt à rembourser, du coup. Donc là, je vais à Paris. Je vais à Paris, premier stage dans l'industrie pharmaceutique, donc qui était un domaine qui alliait à la fois le commerce et également le côté plus scientifique et médical. Donc ça me donnait la sensation de renouer un petit peu avec mes aspirations profondes de médecin. Et donc je me lance dans l'industrie pharmaceutique, un premier stage chez Sanofi Santé Labo à l'époque, avant la fusion avec Aventis. Et puis de là, je commence un chemin, je ne sais pas si on peut dire une carrière, parce que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 6 ans, mais je commence en tout cas un cheminement dans cette industrie. Et je change dans la société presque, pas tous les 6 mois, mais presque tous les ans. À chaque fois, j'ai une société qui vient me chercher un autre poste, encore une autre, etc. J'étais dans une ascension sociale et financière incroyable à mon âge. À chaque fois que je changeais d'entreprise, je prenais 10 ou 15% de salaire supplémentaire. Donc, je me suis retrouvée très vite à 28 ans avec des responsabilités assez rares pour quelqu'un de mon âge. Une voiture de fonction intérieur cuir, décapotable, un bureau avenue Pierre Ier de Serbie dans le 8e, enfin, etc. Et en fait, très vite, j'ai connu cette espèce d'ascension sociale et financière, on va dire, avec une vie parisienne très, très... très mouvementé, très riche, c'est pas le terme, parce qu'aujourd'hui je l'utilise pour qualifier d'autres choses, mais en tout cas une vie très remplie, une vie parisienne très remplie, de beaucoup de travail, de beaucoup de fêtes, de beaucoup de paillettes, de beaucoup de découvertes aussi, de rencontres. Voilà, donc ça a été 6 années comme ça d'une vie hyper active où je suis rentrée dans une espèce d'engrenage aussi de consommation parce que ça va avec. Donc voilà, pour aller travailler, pour faire la fête, eh bien, faut pas être habillée n'importe comment, on roule pas avec n'importe quelle voiture, on boit pas n'importe quel champagne, etc. etc.
Et on n'habite pas dans n'importe quel quartier.
Exactement, voilà, exactement. Donc du coup, voilà, j'étais vraiment rentrée dans ce cercle vicieux, je peux le dire, parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en étais un petit peu prisonnière et que je m'étais éloignée de moi-même, je m'étais éloignée de mes aspirations profondes, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas, que je n'avais pas vraiment été suffisamment à l'écoute de moi. Et puis, il y a eu un événement déclencheur, en fait, qui m'a fait changer complètement de... Enfin, à l'époque, pas complètement, mais qui m'a déjà permis de réaxer un petit peu mon parcours. Ça a été 2 choses, en fait. En parallèle, il y a eu un séminaire, un séminaire avec la force de vente que je devais animer au Carlton à Cannes, dans le laboratoire dans lequel j'étais. et qui s'est fini en histoire assez incroyable qui a fait la une des journaux de Nice Matin et de différents journaux au Danemark, parce que c'était un laboratoire danois pour lequel je travaillais. Et bon, il y avait eu toute une histoire, la force de vente s'était un peu rebellée contre la direction et la directrice qu'on avait à l'époque, qui m'avait embauchée d'ailleurs, qui m'avait récupérée d'un autre labo où elle me connaissait, enfin bref. C'était un petit peu Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Et donc voilà, tout le monde s'est rebellé contre elle lors du séminaire au Carlton, en sortant des sifflets au moment où elle montait sur scène. Enfin, bon, je te passe le détail, mais bon,
Toi,
ça a
t'étais
fait toute une
spectatrice
histoire.
de ça ou actrice?
Moi, j'étais entre les deux, c'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais directrice marketing. Et donc, j'avais travaillé nuit et jour sur 45 minutes de plénière avec tous les délégués médicaux. Je faisais monter des grands pontes en neurologie. À l'époque, je travaillais en neurologie. Je faisais venir des grands médecins très connus que je faisais monter sur scène. Je faisais venir les directeurs régionaux, etc. Il y avait un film qu'on avait fait. Il y avait toute une mise en scène sur la thématique du bateau. Et 45 minutes de show, en fait, qui était préparé depuis extrêmement longtemps, avec beaucoup de travail, beaucoup d'énergie derrière, etc. Et donc, quelque part, je me réjouissais de pouvoir vivre et offrir ce moment très vibrant, très vibratoire aux gens. Et en fait, tout s'est écroulé en l'espace de quelques secondes quand les délégués médicaux se sont mis à siffler la directrice quand elle est montée sur scène. Et là, réunion de crise avec tout le comité de direction dont je faisais partie, on annule le séminaire et on demande à toute la force de vente de rentrer chez elle par ses propres moyens. Donc ça a fini en révolution, en petite révolution française sur le trottoir en face du Carlton, sur la Croisette, avec des hygiaphones, enfin bon, toute une histoire. Et donc tout ce travail que j'avais préparé, que j'avais fait, eh bien tout est tombé à l'eau. En l'espace de quelques secondes. Et c'est un petit peu comme quand on prépare un show, un spectacle de théâtre, un concert ou un show quel qu'il soit, qu'on y met énormément d'énergie, qu'on prépare avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'attention, puis qu'en fait, ça n'a pas lieu parce qu'il y a un événement X, Y ou Z. Et voilà. Et donc, suite à ça, j'ai fait un premier burn-out, un premier burn-out où, rentré à Paris, je ne trouvais plus de sens en fait à ce que je faisais. Et je me souviens quand je suis rentrée là, dans ce fameux grand bureau avenue Pierre Ier de Serbie, dans mon fauteuil en cuir comme ça, à regarder mes emails, je n'arrivais plus à lire mes emails. C'est-à-dire qu'en fait, je lisais dans le vide et mon cerveau n'arrivait plus à comprendre ce que je lisais. C'est-à-dire que j'avais complètement débranché. C'était non. Mon corps était en train de me dire stop. Il faut arrêter ça, c'est plus possible, c'est plus ta vie. Donc, j'ai pas eu le choix en fait. Hein. C'était un mécanisme inconscient, ça je l'ai compris qu'après, un mécanisme inconscient qui m'invitait, c'était même plus que
Ouais,
m'inviter,
c'était
qui
même plus à ce
me,
niveau-là, c'est même plus de l'invitation, c'est on y va
voilà,
là, stop!
c'est ça,
Ouais.
exactement. Et donc il a fallu que je change quelque chose, donc j'ai quitté cette industrie à ce moment-là, et puis. En parallèle, il y a eu toute une histoire aussi avec ma maman qui a eu de gros effets secondaires suite à la prise d'un médicament dont j'avais la charge à ce moment-là, c'est quand même juste incroyable. Et je vous passe l'histoire parce que c'est Dallas et qu'en plus c'est une histoire assez personnelle, mais ça a vraiment contribué à précipiter mon départ très rapide de cette industrie, avec en plus la conscience. De ce qui s'y passe dans cette industrie pharmaceutique. Alors, je ne parle pas de tous les labos, je peux juste témoigner de ceux dans lesquels je suis passée et j'ai travaillé dans quatre laboratoires différents. Mais je peux vous dire que le marketing et la façon de fonctionner, et ce que les choses sont dites et des choses que j'ai pu écrire aussi, enfin, sont pas toujours très justes. Et en tout cas, la finalité, voilà, on ne se leurre pas, la finalité est toujours la même, ça reste des entreprises et la finalité, c'est l'argent. Voilà, c'est prescrire plus, vendre plus. Et quand il s'agit de santé et quand il s'agit de molécules qui ont un impact indéniable sur la santé, ben on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. C'est là où je me suis rendu compte que ouais, ce marketing de la santé y a beaucoup de dérives et on vend pas des shampoings ou des boîtes de petits pois, quoi. C'est pas un marketing anodin. Et je me suis extraite de cet environnement parce que pour moi, c'était pas la bonne façon de faire du bien aux gens. C'était pas la bonne façon d'aider le monde. Et je me suis dit, tu as une autre place sur cette terre et c'est pas celle-ci. Alors, je ne dénigre pas du tout l'industrie pharmaceutique. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent il ne faut faire que des thérapies alternatives et on abandonne la médecine moderne. Je fais plutôt partie des gens qui disent réconcilions la vision moderne, entre guillemets, et enfin, la médecine moderne, et puis des pratiques plus ancestrales, plus holistiques. Réconcilions la prise en charge de la tête et du corps, prenant conscience que l'un et l'autre ne sont pas séparés. Prenons conscience qu'il existe un corps physique, qu'il existe aussi un corps émotionnel, un corps psychique, un corps énergétique, un corps spirituel, et que tout ça est lié et on n'est pas de la tuyauterie d'un côté et un cerveau de l'autre. C'est pas vrai. Donc, soigner un problème cardiaque, eh bien, demanderait de s'interroger aussi sur le passé, les émotions que vit la personne, son mode de vie, etc., etc. Enfin bref, je dérive un petit peu, mais en tout cas, voilà, j'ai eu ce besoin de sortir de cette industrie-là et comme c'était difficile de le faire de façon consciente, je crois que mon corps m'a juste dit à un moment donné... Voilà, on lâche, on passe à autre chose et stop, exactement.
Et du coup, quand tu as fait ton burn-out, tu as été arrêtée ?
J'ai été un petit peu arrêtée, ouais. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai demandé à... Je voulais partir, clairement. À l'époque, la rupture conventionnelle n'existait pas. Et j'étais à deux doigts de poser ma démission, en fait, et d'arrêter du jour au lendemain. Et à l'époque, mon compagnon m'avait dit « surtout pas ». Surtout pas, ne fais pas cette erreur, ne démissionne pas parce que tu n'auras le droit à rien. Et moi, à l'époque, j'avais un ego surdimensionné. De toute façon, j'ai besoin de personne. Et puis, jamais je serai au chômage, jamais de ma vie. Tu m'entends ? Jamais, jamais. Bon, bref, il a quand même eu raison de moi. Et il a eu raison, pour le coup, d'insister un petit peu. Et donc, je n'ai pas démissionné. J'ai négocié un licenciement. Mais ça a été très, très compliqué parce que... On me disait, bah, écoute, Marie, on n'a rien à vous reprocher, on ne peut pas vous licencier. On n'a rien à vous reprocher, ce ne serait pas légal, ce n'est pas possible. Donc, ça a été très compliqué, mais j'ai fini par être licenciée. Avoir du coup, et merci la France, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais avoir du coup un an et demi à peu près sereine financièrement devant moi. Et voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que plutôt que de prendre le temps de respirer dans ce qui m'était arrivé, de me remettre sur pied, de me poser les bonnes questions ou justement d'arrêter de m'en poser et de suivre les élans de mon cœur, eh ben, j'ai tout de suite rebondi en créant une entreprise de marketing, d'études qualitatives avec des bureaux à Marseille et des clients à Paris. Et en fait, je me suis remise tout de suite tête baissée dans la création d'un nouveau projet. La peur du vide, je pense, la peur de financière, de ne pas avoir de revenus. Et donc,
tu déménages à Marseille ?
Je déménage à Marseille moitié du temps. À l'époque, mon compagnon était moitié dans le sud, moitié à Paris. Et là, du coup, je me dis, ben voilà, c'est sûrement le moment d'être plutôt basé dans le sud avec un pied-à-terre à Paris, de faire l'inverse. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait. Bon, malheureusement, la relation s'est arrêtée. Donc, ça a été un gros traumatisme dans ma vie.
Mais bon, là,
j'avais 28-29. J'ai créé ma société à 28 ans ma relation s'est arrêtée un an après, donc à 29 ans. Donc là, je me suis retrouvée avec une entreprise qui avait un an. Un loyer important à Marseille, alors avec un superbe appartement incroyable, avec une vue incroyable sur la mer. Mais voilà, donc il fallait assumer tout ça. Et donc, j'ai foncé, j'ai travaillé à fond, j'ai développé cette boîte qui a fonctionné assez rapidement. J'ai pu embaucher une personne, une deuxième personne. J'ai pu me payer un salaire correct. Et donc, Je travaillais comme ça pendant 7 ans, en fait. La société a tourné pendant 7 ans, mais assez rapidement, je dois avouer que je me suis sentie un peu frustrée de ne pas. Une fois la phase de créativité passée, les créativités du début, où on réfléchit sur le nom, le logo, les couleurs, la déco. Je me suis éclatée à décorer 300 mètres carrés de bureaux haussmanniens à Marseille avec un jardin intérieur. Toi qui connais Marseille, dans le triangle d'or, à l'angle de la rue Paradis, du boulevard Perrier. Et donc j'avais 300 mètres carrés avec un parquet incroyable, des moulures au plafond. Voilà, donc je me suis éclatée à la déco, à brainstormer pour le nom, à créer un environnement visuel, à créer un site internet, une communication. Et puis, une fois que tout ça était passé, alors il y a eu une belle première étape aussi avec les deux personnes, deux jeunes femmes, un petit peu plus jeunes que moi, qui m'ont rejoint tout de suite dans l'aventure. Et il y a eu vraiment une communication, une énergie très positive, très, très créative avec ces deux jeunes femmes, qui font que voilà, les 2, 3, 4 premières années ont été très, très riches, très, très joyeuses. Mais rapidement, voilà, je sentais que j'avais envie de créer, j'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de. Et j'étais en fait rentrée dans de la gestion. Dans des rapports commerciaux, dans du management et de la gestion administrative et financière. Et c'est sûrement pas mes qualités premières. Et donc, de cet ennui, de ce besoin de nouveauté, j'ai d'abord pris un an où je travaillais à distance. Je m'étais organisée avec mon équipe. Je travaillais le matin avec mon BlackBerry. Moi, j'habitais Paris. Et l'après-midi, j'allais à une école qui s'appelle Pygmalion à Paris, qui est une école de comédiens. Et donc pendant un an, j'étais chef d'entreprise le matin et comédien l'après-midi, qui a été une expérience très très riche de reconnexion aux émotions en fait, où dans ce rôle de chef d'entreprise, dans ce rôle de businesswoman que je m'étais créée. Eh bien, les émotions, en fait, je ne les autorisais pas à s'exprimer. Je les gardais, en fait, on est dans un monde où, quand on nous demande est-ce que ça va, comment tu vas, ben, on répond ouais, ça va, merci, et toi? Et en
Et
fait,
puis
l'autre met
surtout, les gens, ils n'ont pas du tout envie d'entendre que tu vas pas bien.
C'est vrai. Exactement. 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 Donc, du coup, on leur dit pas, même si ça va
C'est
pas
ça.
bien. On le garde pour soi. Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va, super, et toi? Super. Et ça peut durer longtemps comme ça.
C'est
Et en
ça. Et
fait,
puis, quand ils savent que tu vas pas bien, du coup, on arrête de te poser la question.
c'est ça, exactement. Parce que voilà, au moins, on est sûr de ne pas avoir
D'être tranquille,
la
c'est ça.
réponse et d'être tranquille. Mais du coup, ça circule pas. Du coup, ça circule pas. Et en fait, moi, j'étais vraiment, 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 vraiment là-dedans depuis des années. Même dans mon enfance, pour le coup, mais je me suis rendu compte que par la suite, la société m'avait vraiment encore plus contenue, quoi. Hein, et donc, où est-ce que je voulais en venir? Je me suis
Là, du
perdue
coup, tu
dans mes
disais
pensées.
que tu avais pris des cours du coup de théâtre chez
Ouais, voilà.
Pygmalion. Et là, quand tu fais ça, tu le fais dans quelle optique de prendre ces cours de théâtre? Donc, tu disais, bon, te reconnecter avec tes émotions, mais est-ce que tu as l'ambition de te dire, j'aimerais un jour monter sur les planches? Enfin, c'était quoi du coup ta démarche quand...
J'étais attirée par le monde de l'image, le monde du jeu, par le théâtre, par les arts d'une façon générale. Par les arts, j'allais énormément au cinéma. J'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. Et je crois que finalement, c'était seulement au cinéma que je m'autorisais à laisser circuler les émotions. Je m'autorisais dans une salle noire à pleurer. Je m'autorisais à rire à chaudes larmes, je m'autorisais à frissonner de peur, je m'autorisais à vivre, à laisser vivre mes émotions dans une salle noire. Chose que je ne faisais pas dans ma vie de tous les jours. Et je crois que c'était un besoin d'aller explorer en fait ce monde-là, ce monde de la création, ce monde où finalement c'est par l'émotion qu'on communique. Un comédien qui joue dans un film, un chanteur aussi, eh bien c'est par l'émotion qui circule qu'il va pouvoir aller toucher l'autre. Et du coup, ça nous sort de ce monde.
Et si tu me permets, et de se toucher ouais. soi-même.
Et de se toucher soi-même aussi, d'aller se toucher, faire vibrer des cordes à l'intérieur de soi. Et du coup, on sort de ce monde de robots dans lequel, moi en tout cas, je baignais, dans lequel je vivais. Et j'étais très attirée par ce monde du cinéma. Donc à l'époque, j'allais très souvent à Paris, dans le 6e, voir des films. Et j'ai eu ce besoin d'aller moi-même explorer ce monde-là. Donc Pygmalion, qui est une école de cinéma. C'est pas tant théâtre, c'est vraiment cinéma et caméra. Et là, j'ai vécu une année assez incroyable où j'ai ouvert des portes. Je me suis autorisée à pleurer en public. J'ai joué pour la première fois de ma vie devant une cinquantaine de personnes une scène de séparation sur le quai d'une gare en temps de guerre et j'ai pleuré, j'étais sur les genoux, je pleurais, etc. Et les autres me disaient « mais comment t'arrives à faire ça ?» Et en fait, c'était toute une des vibrations de mon enfance, parce que je ne t'ai pas raconté mon histoire, mais j'ai eu une enfance pas très rose, voilà, si je devais mettre une couleur sur mon enfance, ce serait gris-noir, tu vois. Et donc, du coup, j'avais beaucoup d'émotions qui n'avaient pas circulé de l'enfance, et ça a été une façon aussi pour moi, le cinéma, de faire sortir et de faire circuler ces émotions qui étaient stockées à l'intérieur de moi et qui ne demandaient qu'à sortir. Du coup, il y avait des émotions, pour le coup, qui circulaient très, très bien et les autres m'enviaient de pouvoir les jouer aussi facilement, notamment la tristesse et la colère qui étaient vraiment des choses que j'avais au fond de moi. Et j'avais qu'à appuyer sur un bouton pour que ça parte tout de suite quand certains avaient plus de mal à le faire. Par contre, j'avais des émotions que j'avais beaucoup de mal à jouer, comme la peur. La peur était vraiment une émotion que j'avais beaucoup de mal à jouer la peur. La joie également, la joie pure était quelque chose qui était pour moi très très difficile. Voilà, donc c'était très intéressant d'explorer ce monde-là et d'aller voir un petit peu, de plonger dans le monde des émotions que qui étaient vivantes à l'intérieur de moi, un peu endormies mais vivantes, et qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Donc ça a été une très très belle odyssée, ça m'a énormément remuée. Je pense que c'est une année qui m'a beaucoup, beaucoup remuée, mais c'était nécessaire parce qu'il y avait un nettoyage émotionnel très important à faire. Pour moi, ça a été plus facile de jouer une scène de douche nue devant 50 personnes que de jouer la peur, par exemple. Ça paraît surprenant. Pour moi, finalement, la nudité du corps a été quelque chose qui était... c'était un petit peu challenging, bien sûr, hein, de jouer une scène de douche devant 50 personnes complètement nues. Mais je me suis sentie beaucoup plus nue à nu, à jouer certaines émotions ou à me livrer totalement. Quand j'étais sur ce quai de gare à pleurer toutes les larmes de mon corps, et ben finalement là j'étais à nu. Là j'avais ouvert vraiment mes profondeurs et là je laissais exprimer la vérité de mon être en fait, de ce qui était à l'intérieur de moi. Et la Marie hyper forte, à l'époque, je me teignais les cheveux en blond, très très blond. Bon, je suis toujours un peu blonde, mais là, j'étais vraiment très blonde. Je me faisais des boucles tous les matins, je portais des 9 cm de Louboutin. Cette Marie Wonder Woman, Business Woman, bah, en fait, je laissais complètement tomber ce déguisement et ces masques. Et là, je pouvais exprimer l'authenticité de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, qui n'était pas moi, parce qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai et le cheminement que j'ai pu faire dans le monde des émotions, j'ai compris que les émotions ne nous caractérisent pas. Je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma tristesse. Ce sont des états vibratoires, des courants électriques qui nous traversent. Et on est bien plus que ça. En fait, on est joie. Quand on a fait circuler la colère et la tristesse qui parfois créent du larcène, la petite musique à l'intérieur, ça n'est que de la joie, quoi, hein. C'est comme quand on souffle sur les nuages, derrière, il y a toujours le soleil. Toujours. Même quand là, je te parle, tu vois, je regarde par ma fenêtre, il y a des gros nuages avec quelques endroits où c'est gris, noir, etc. Mais derrière, le soleil, il est tout le temps là, hein. Même la nuit, le soleil est là. Donc, il n'arrête pas de briller, d'être là. C'est pareil avec nous. En fait, on est caractérisé par la joie qui est notre essence, en fait. C'est notre essence authentique, divine, j'ai envie de dire. C'est des termes, j'espère que ça ne va pas faire peur aux auditeurs, mais c'est ce qu'on est. On est une vibration de joie et de lumière. et les émotions qui viennent par-dessus parfois entacher cette joie, eh bien, c'est pas nous. C'est pas nous. Ce ne sont que des courants électriques, des vibrations qui appartiennent au passé, qui appartiennent à l'extérieur et qui nous traversent. Et
qui nous permettent aussi de prendre conscience qu'on est bien aussi, parce que justement, c'est l'alchimie de toutes ces émotions qui permet de se dire, ok, là, j'ai été triste, mais ce qui permet de profiter encore plus du moment de joie d'après.
Exactement, parce qu'on est des êtres complexes et que ce serait même pas drôle d'être toujours dans la joie et toujours dans le soleil et la lumière, comme tu le dis. En fait, on ne peut apprécier la lumière que parce qu'il y a du contraste et qu'il y a de l'obscurité à côté. Donc après, tout est une question de proportion et dans le paysage de notre vie, à nous de choisir les couleurs et les tonalités qu'on a envie d'y mettre. Est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus de lumière ou plus d'obscurité? Et voilà, et puis les choses changent en évolution constante. Et les émotions, moi je trouve que c'est un monde qui est magnifique. Je m'y sens extrêmement bien dans ce monde-là. Et quand je reçois des gens en consultation et que ça pleure, ou que ça rit, ou que la colère qui sort, et ben, je suis la première ravie parce que c'est vraiment un moyen de faire vibrer de l'émotion. C'est ex motere en latin, c'est. Le mouvement vers l'extérieur, hein, c'est sortir de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça l'émotion. Et autoriser ce mouvement permet de nettoyer, permet de faire vibrer, de libérer en fait les choses qui sont à l'intérieur.
Et d'avancer.
Et d'avancer, exactement, d'être plus libre.
Ouais. Ouais. Donc du coup, là, tu fais cette formation pendant un an.
Ouais. Je fais cette formation pendant un an, tout en étant chef d'entreprise avec mon BlackBerry à l'époque. Donc, j'avais un peu la sensation d'être un peu schizophrène, tu vois, parce que en tant que chef d'entreprise, j'utilisais une certaine partie de mon cerveau. Tu vois, c'était le cerveau droit, le contrôle. C'était le contrôle, l'organisation, la gestion, tu vois. Et puis, en fait, l'après-midi, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que je devais lâcher prise, m'autoriser à être dans l'instant et non pas dans la projection, dans l'instant présent, quitte à aller chercher un peu dans le passé d'ailleurs. Mais si tu es déjà dans la projection quand tu es en train de jouer, tu es foutu. Alors que quand tu gères une entreprise, tu as une vision, tu vois, tu regardes toujours vers l'avant quand tu gères une entreprise. Là, on me demande d'aller puiser dans mon passé, dans mes vibrations passées, pour dans l'instant présent faire vibrer les gens et les amener vers quelque chose. Donc du coup, ça me demandait vraiment d'utiliser des parts de moi complètement différentes. Et donc, ça a été une année très, très bouleversante où j'ai ouvert des portes et où je me suis rendu compte aussi que le métier de comédien n'était pas pour moi. Voilà, donc ça a été une expérience plus de développement de moi-même, J'ai pas eu envie d'en faire un métier par la suite. Alors, j'ai fait quelques petits courts-métrages comme ça pour m'amuser. Un long où j'ai un rôle d'espionne qui dure quelques minutes dans le film. Voilà, donc c'était mes petites satisfactions, mes petites concrétisations dans le domaine. Mais j'ai pas eu l'envie de persévérer, de poursuivre. Pour moi, c'est un métier qui est très, très difficile, le métier de comédien. De se mettre dans un état qui n'est pas le nôtre, en fait, sur demande. Je trouve extrêmement, extrêmement difficile, hein, jouer de la joie quand dans sa vie personnelle, on est triste. Ou l'inverse, hein, aller jouer de la tristesse quand on aspire quand même à être plutôt heureux. Et c'est quand on joue des rôles à un certain niveau, c'est des tournages qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, voire plus longtemps sur certaines productions. Et j'ai senti que ce n'était pas la vie que j'avais envie d'avoir, que j'avais envie de vivre les émotions différemment. Voilà, alors j'avais discuté avec des comédiens, j'ai fait quelques passages, quelques stages au cours Florent, donc là c'est plus théâtre. Et j'avais discuté avec certains comédiens qui me disaient « oui, il y a des techniques, hein, pour séparer les choses de ce qu'on joue et dans son quotidien, dans sa vie. C'est vrai, quand on va jouer un rôle sur scène tous les soirs, c'est extrêmement éprouvant, hein, quand on y pense, selon le rôle. J'ai un ami canadien qui est à Barcelone, qui est comédien, qui jouait le rôle d'Hitler. Et tous les soirs, pendant un mois et demi, pas tous les soirs, mais 3-4 fois par semaine, il jouait le rôle d'Hitler. C'est remuant dans sa vie au quotidien. Donc lui, ça l'a extrêmement... ça lui a fait sortir, toucher des choses à l'intérieur. Mais dans le quotidien, dans sa vie personnelle, c'est quelque chose de très, très remuant. Donc voilà, donc je me suis rendu compte que ce n'était pas un métier pour moi. Par la suite, j'ai fait quelques petites expériences dans la production, toujours en ayant ma société. À l'époque, je m'étais organisée, j'avais une équipe en place qui était très autonome et du coup, je gérais l'administratif et puis toutes les choses compliquées de ma société ou les relations commerciales un peu complexes. Je gérais tout ça à distance, mais je n'avais plus besoin d'être physiquement sur le lieu de l'entreprise. Donc, j'ai pu me permettre des choses assez intéressantes tout en ayant mon entreprise. Et à l'époque, j'avais fait un petit peu de production de clips de musique. Donc là, déjà, voilà, la musique commençait un peu à arriver d'une certaine façon. Il y avait toujours l'image, mais l'image appliquée au son. Donc voilà, donc j'avais fait un petit peu de production pour des clips musicaux. Belle expérience aussi, mais je me suis rendu compte finalement que la direction de production, ça n'était guère que le métier de chef d'entreprise appliqué à un art visuel, mais que j'étais pas dans la création. J'étais encore une fois dans la gestion, le management, gérer du temps, de l'argent et des gens. Et en fait, il y avait encore cette frustration. Ça n'est que bien plus tard que j'ai découvert vraiment la création sous sa forme la plus pure et le fait de m'autoriser à la vivre dans mon métier et puis à l'extérieur de mon métier. C'est arrivé par la suite, lors de mes premiers voyages.
Et justement, alors du coup, il était quand ce premier voyage et où ?
Il a été, donc, après j'ai fait un second burn-out, donc après 7 ans d'entreprise. Donc moi, voilà, mes façons de réagir, c'est apparemment, c'est mes schémas jusqu'à présent, c'était le burn-out. Il faut changer quelque chose dans ta vie. Je décide de vendre ma société. Donc je mets la société en vente. Je trouve tout de suite une acheteuse, ma concurrente en local qui lorgnait sur la société depuis des années sans que je le sache. Donc c'était une très bonne nouvelle. J'ai une acheteuse, mais l'administration en France, ça n'est pas simple. Quand on vend une société, ça peut être un petit peu long plus long que ce qu'on peut imaginer. Et au lieu de prendre les 6 mois qu'on avait envisagé pour vendre la société, ça a mis 1 an et demi. Et donc, à l'époque, je n'avais plus de collaborateurs en place, etc. Ça a été très, très, très compliqué. Et le travail qu'on faisait habituellement à 3 ou 4 personnes à temps plein, eh bien, je l'ai fait quasiment toute seule, en fait, pendant 1 an et demi. Et donc, j'ai fini en burn-out. Là-dessus, des problèmes de trésorerie, parce que j'avais créé une branche de ma société à Avignon. J'avais créé la ville du théâtre, n'est-ce pas ? Voyez le rapport. J'avais créé des bureaux avec une décoration sur le thème du théâtre et du cinéma, avec des vieilles bobines de films. Voilà, donc je m'étais, là encore... amusé, je m'étais fait plaisir d'un point de vue créatif, mais d'un point de vue purement business, en fait, j'avais un peu cannibalisé l'activité de la première société. Bref, je vous passe le détail, mais du coup, difficile d'un point de vue de la trésorerie. Je faisais un très bon chiffre d'affaires qui avait un peu augmenté, mais les charges fixes que je m'étais rajoutées, en fait, ne me permettaient pas de couvrir tout. Enfin bref, donc tout est devenu un petit peu compliqué. Et donc, la vente de la société s'est passée un peu dans la douleur, je dois dire, parce que plus de trésorerie, etc., plus de collaboratrices, un travail mais par-dessus la tête. Et donc, ça a été assez compliqué. J'ai fini sur les genoux, j'ai donc fini par vendre la société. J'ai fini vraiment sur les genoux, très, très fatiguée. Et là, j'ai failli rentrer exactement dans le même schéma que celui dans lequel j'étais avant, que celui que j'avais quitté. Et je me suis vue, en fait, reprendre des bureaux, cette fois-ci à Paris, recommencer à travailler dans le marketing, dans les études qualitatives. Et là, sans prendre de vacances, sans faire de break, je me souviens, mon père et mon frère, je les avais en stéréo l'un et l'autre, qui me disaient, bon, ben voilà, maintenant que tu as vendu ta société, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu te rends compte?
C'est quoi la suite?
C'est quoi la suite? J'avais pas pris une semaine de vacances entre les deux, quoi. Et donc, sous la pression de ces voix extérieures, je me suis... mise à reproduire un peu le même schéma que j'avais quitté. Et le déclic, ça a été deux choses. Je me souviens, j'étais à Paris et puis je travaillais sur un dossier pour L'Oréal, sur une étude pour L'Oréal. Et puis, à quelques heures de rendre mon dossier, la personne en charge de l'étude m'appelle et me dit, voilà, il faudrait que tu complètes avec telle et telle chose, etc. Et donc, j'ai dû passer une nuit entière supplémentaire sur le rapport que je devais rendre. Et à 9 h du matin, après avoir passé une nuit blanche sur mon rapport, j'envoie le rapport et puis là, je me rends compte que j'avais mal au ventre, que j'étais fatiguée, que j'avais passé la nuit entière. Je vois l'heure, 9 h du matin, et j'étais encore en burn-out, hein, très clairement. J'étais pas, je pense que j'étais pas sortie. C'est pas parce que j'avais vendu ma boîte que je m'étais réparée pour le coup. Donc j'étais physiquement, moralement, vraiment dans un état très affaibli. Et il y a eu un autre épisode où j'avais rendez-vous pour un nouveau client à une Pierre Premier de Serbie dans le, non, pardon, rue Lincoln dans le 8e. Et donc ce nouveau client, je m'habille le matin, j'enfile un premier talon. Et puis je mets un deuxième talon, et alors là, sciatique, mais un truc de fou. J'avais 30 et quelques années à l'époque, et 35 ans, et je me sentais vraiment comme une grand-mère de 90 ans, quoi. Vraiment, je ne pouvais plus marcher, je pouvais plus. J'avais extrêmement mal. Et je serre les dents, je vais quand même à mon rendez-vous. Je fais le rendez-vous, tout sourire, j'arrive à faire. Comme si de rien n'était. Et puis, je pars du rendez-vous, je prends le taxi, je rentre chez moi. Et là, je m'écroule, je reste allongée sur mon lit pendant 3 jours. Impossible de mettre le pied au sol. Et là, je me dis, bon, il faut vraiment faire quelque chose. Mon corps était en train de me parler. Mon corps était en train de me dire, arrête de mettre ton costume de businesswoman. Arrête de courir. Maintenant, c'est stop. Pose-toi et change quelque chose dans ta vie. Donc, j'ai pas eu le
Tu
choix.
avais la conscience d'être en burn-out ou tu sais, enfin, est-ce que tu avais le mot qui avait été diagnostiqué à cette époque-là ou...
Non, non.
Ouais, c'est après coup.
Ouais. La première fois où j'ai fait un burn-out, oui, en plus j'avais été voir un médecin à ce moment-là qui m'avait donné des médicaments que je n'avais pas pris, mais il avait posé le mot burn-out. Cette seconde fois-là, au moment où j'ai vendu ma société, non, j'avais pas été voir de médecin pour le coup. Je savais que la libération passait par la vente de ma société. Et puis, non, je pense que je voulais pas forcément voir et j'avais pas posé de mots ou de diagnostic vraiment sur la chose. Et puis je dois dire, ça faisait tellement longtemps que j'étais dans ce mode-là, à travailler énormément, à ne pas écouter mon corps, que finalement c'était presque un état pas normal, mais ouais. C'est quelque chose qui c'est pas venu du jour au lendemain en fait. Je pense que c'est vraiment venu progressivement, progressivement. Et j'ai quelque part sur la, je pense les 2 dernières années, j'ai appris à vivre un peu avec. J'ai un peu appris à vivre avec et il fallait de toute façon que je tienne bon. J'avais pas le choix. Il fallait vendre cette société. Et puis alors après, quand je l'ai eu vendue, il fallait que je me recrée tout de suite un statut, une activité, etc., etc. Et c'est mon corps encore une fois qui m'a parlé parce que j'étais tellement pas connectée à mon inconscient qu'en fait c'est par le corps que le message s'est exprimé. Maintenant, il faut arrêter. Donc, et c'est qu'après que j'ai compris ces signaux, parce que je t'avoue que quand je me suis retrouvée bloquée au lit avec une sciatique, la seule chose à laquelle je pensais, c'est « Ah là là, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, ça fait mal, ça fait mal. » Mais à aucun moment, je me disais « C'est un message de ton corps qui te parle, qui te demande d'arrêter, de changer de trajectoire. » Bon, j'ai compris après. Et donc, suite à cet épisode-là, je me dis quand même, tu pourrais te prendre des vacances. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc en moi qui m'appelait vers l'Inde. Pourtant, j'étais plutôt du genre à aller passer mes vacances à faire les soldes à New York, mais quelque chose m'appelait vers l'Inde. Mais une grosse peur aussi. Et puis alors, partir seule en voyage de surcroît en Inde, c'était vraiment quelque chose d'impensable pour moi. J'avais jamais voyagé seule. J'étais toujours accompagnée de mon compagnon et là, voyager seul et en plus en Inde était assez difficile. Et je me retrouve à discuter au téléphone avec une amie qui avait fait le tour du monde en sac à dos à deux nanas. Et puis elle avait fini son voyage toute seule. Et je discute avec elle et elle me dit, ah, mais t'as envie d'aller en Inde? écoute, je comprends que ça puisse t'impressionner un peu au départ. Tu pourrais aller au Népal, qui est un plus petit pays, c'est juste à côté, ça y ressemble, mais les gens sont beaucoup plus doux et c'est très sécure. Là-bas, tu ne risques absolument rien. C'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés dans mon voyage. Et là, ça a vraiment fait tilt. Je pense que le fait qu'elle me rassure sur le fait que je ne risquais rien dans ce pays a été un déclencheur. Je regarde sur Internet, je tape Népal sur Google et là, je tombe sur la chaîne des Himalayas en photo. Et je me dis, mais waouh, il faut que j'aille marcher là-bas. C'est vraiment venu comme ça. C'est vraiment venu un appel qui venait de je ne sais où parce que je n'avais jamais foutu les pieds en montagne de ma vie avant. Peut-être aller pour une journée ou deux et encore en râlant parce que la rando, ce n'était pas mon truc. Et là, je ne sais pas, c'est un appel de mon corps. J'avais une sciatique hein, quand même. Hein. Mais mon corps me disait, il faut aller marcher là-bas. Je regarde partir marcher Népal, trek Népal. Et là, je tombe sur un voyage qui était organisé où on partait à 5 personnes pour marcher, faire le tour des Annapurna, le camp de base des Annapurna sur 10 jours. Et donc, 10 jours en montagne, à monter à 4300 mètres d'altitude, chose que je n'avais absolument jamais fait de ma vie, mais je sentais qu'il fallait que je fasse ce truc-là. Le départ était 3 semaines après. Et j'avais ma sciatique, hein, tu vois, et je me dis, ouais, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Je m'inscris au trek pour 3 semaines après. Alors là, autour de moi, tout le monde me dit, mais t'es folle, tu vas jamais y arriver, tu sais pas ce que c'est... Tu vas galérer. Et puis il y a eu des avalanches, tu risques de mourir là-bas. Et puis il y a des tremblements de terre. Et puis etc. Alors c'était vrai, hein. Il y a des tremblements de terre réguliers au Népal. En 2015, il y a eu un tremblement de terre dévastateur qui a vraiment fait beaucoup de mal au pays. Et donc c'est véridique. Mais dans l'absolu. Je sentais que ces petites voix, encore une fois, ce n'était pas les miennes et que la mienne, me criait d'y aller et qu'il fallait que j'y aille. Donc j'y vais, je m'équipe au vieux campeur. J'avais encore des petites douleurs, mais ça me permet, je pouvais quand même encore marcher. Je pouvais à nouveau marcher. Je vais au vieux campeur, je m'équipe de la tête aux pieds. Et puis je pars marcher au Népal. Et en fait, en arrivant là-bas, je me sens comme chez moi. Une espèce de sensation de me retrouver à la maison. De me déposer en... Oh, ah, et puis le trek commence et en fait, les dernières petites douleurs que j'avais encore de la sciatique se sont complètement évacuées au moment où j'ai commencé à marcher. C'était vraiment le médicament que mon corps attendait pour évacuer cette sciatique. J'avais besoin de me brancher, de me connecter à la terre. Et à partir du moment où j'ai mis les pieds en montagne, la douleur est descendue dans la terre et j'ai été tranquille. J'ai pu marcher pendant 10 jours. On marchait entre 6 et 8 heures par jour, en montée évidemment, parce qu'on est passé de 1800 mètres à 4300 mètres d'altitude, donc ça grimpe évidemment. Et je ne dis pas que ça a été facile, les 3 premiers jours voilà, ont été un petit peu physiques pour moi, le temps de se mettre en route, de lancer la machine. Mais quel bonheur, quelle joie de marcher dans ces montagnes, de me reconnecter au souffle, de me reconnecter à mon corps. De me connecter à l'énergie de ces gens des montagnes qui rayonnent de joie, quoi. C'est des gens qui n'ont rien. T'as des petites mamies qui habitent à 2500 mètres d'altitude, tu sais, qui ont les rides de la joie sur leur visage, des yeux qui pétillent. Alors elles sont tordues, elles ont porté des choses, des fardeaux toute leur vie. Elles sont, tu vois, c'est des gens qui n'ont rien, c'est des gens qui vivent dans la misère la plus totale, mais qui sont dans la joie. C'est quand même juste incroyable. Et pour moi, ça a été vraiment une leçon de vie, mais dingue, une leçon de vie. Et énergétiquement, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, quoi. C'est paf, il y a une ouverture au contact de ces gens, un ancrage aussi, hein, mes pieds avec la terre. Vraiment, j'ai senti ce que c'était que l'ancrage. Et vraiment, énergétiquement, énormément de choses se sont remises à circuler à l'intérieur de moi. Et à l'issue de ce trek, je ne pouvais plus rentrer à Paris, c'était pas possible. J'avais un vol retour et en fait, je ne l'ai pas pris. Je ne suis pas allée à l'aéroport ce jour-là, je sentais qu'il fallait que je reste au Népal. Je ne savais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas rentrer à Paris, ce n'était pas possible. Mon cœur m'interdisait, mon corps aussi m'interdisait d'y aller. Et j'ai fait une des choses les plus importantes, je pense, dans mon parcours jusqu'à présent, c'est que j'étais en mission, j'étais censée commencer une mission pour L'Oréal, pour ne pas les citer, encore eux. Et je me souviendrai toujours du moment où j'ai écrit le mail disant, écoutez les gars, trouvez quelqu'un d'autre parce que ben, moi je prolonge mes vacances au Népal, je ne vais pas rentrer. Et cette mission que vous me proposez, ben, je suis sûre que quelqu'un d'autre sera bien, bien mieux que moi pour la mener à bien. Moi je reste sur place, j'ai encore des choses à faire là-bas. Ça m'a coûté d'écrire ce mail, ça m'a coûté de l'envoyer, mais je me suis tellement sentie libérée après. Que voilà, ça a été derrière l'ouverture vers un nouveau monde et une nouvelle vie qui a clairement commencé à ce moment-là, après ce trek. Et là, je me suis dit, ben, je reste le temps que je sens que j'en ai envie, que j'en ai besoin. Et le guide qui nous avait guidés pendant le trek m'avait parlé d'une retraite bouddhiste, d'une retraite dans des monastères bouddhistes qu'on peut faire au Népal. Et je m'étais souvenue de ça, je regarde sur Internet et puis je vois que 3 semaines après commence un stage qui est ouvert aux Westerners comme nous, tu vois, où on accepte les gens du monde de l'Ouest pour venir participer à cette retraite de méditation et d'enseignement sur la philosophie bouddhiste. Alors j'insiste, ce n'est pas la religion bouddhiste, mais bien la philosophie bouddhiste. Et donc je m'inscris pour ces 10 jours de pratique, 10 jours de retraite. En silence. Et entre les deux, j'avais 3 semaines de battement. Et là, je ne sais pas comment, je me retrouve à faire une formation de sonothérapie. Donc, soigner les gens avec le son des bols tibétains. C'est un master népalais qui nous a enseigné cette discipline. Voilà, j'étais avec une jeune femme indienne et avec une anglaise qui habitait à Abu Dhabi, et toutes les trois, on a reçu ces enseignements. C'était vraiment une initiation incroyable, et une initiation incroyable. Là, j'ai découvert la puissance du son sur nos corps. J'ai compris qu'on n'était pas qu'un corps physique et un corps mental, séparés l'un de l'autre, mais que tout était bien lié et relié l'un avec l'autre. Et puis, je me suis rendu compte de l'importance du son. Alors, moi, la musique a eu toujours une place très importante dans ma vie. J'ai toujours été très, très connectée au son, à la musique, à travers la danse, à travers le jeu. Mais j'ai abandonné parce que la façon avec laquelle j'avais commencé à apprendre le piano, la guitare, c'était une façon traditionnelle, solfège, etc. C'était pas mon truc. Mais la musique a toujours été extrêmement forte et présente. Et là, je me retrouve à apprendre à soigner les gens et à faire du bien aux gens avec le son. Donc, vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe. Et je sens encore des portes qui s'ouvrent en moi. Je sens des parts de moi qui s'autorisent à vibrer, à vivre. Et prendre soin de quelqu'un, pour moi, à cette époque-là, je n'avais pas d'enfant. J'étais chef d'entreprise, etc. C'est quelque chose de très très nouveau, hein. Être dans une position de thérapeute, de la personne qui tend la main, qui aide, qui soigne. Et là, j'ai rencontré ma guérisseuse intérieure. Et là, il s'est passé quelque chose, voilà, de très 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 puissant, très puissant. Suite à ça, je vais donc faire cette retraite de 10 jours en silence dans le monastère. Alors là encore, une rencontre magnifique avec la méditation, avec le silence, avec le bouddhisme et avec moi-même. J'observe dans ces moments de méditation du haut de ma colline, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était un conflit entre oh, mais ce que tu as appris là, ce faire du bien aux gens avec le son, c'est incroyable. C'est beau, c'est incroyable. Et puis une autre part de moi qui disait, mais c'est pas un métier, de toute façon tu n'en vivras jamais, c'est pas un métier, c'est pas une activité possible, etc. Et donc il y avait à l'intérieur de moi deux voix, tu vois, un peu comme
Le loup blanc et
l'ange
le
et
loup
le
noir, quoi.
démon. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils parlaient l'un à l'autre à côté. Et puis moi, je regardais ça. Et en fait, je me suis positionnée comme observatrice. Et c'est ça qui m'a permis d'en sortir, c'est que je n'étais plus ni une voix ni l'autre. J'étais la caméra. Je suis devenue le chef d'orchestre ou le metteur en scène de la scène qui se jouait. C'était comme un spectacle de marionnettes, avec le loup blanc et le loup noir qui se parlaient l'un l'autre. Et moi, j'étais le metteur en scène qui regardait tout ça avec, en prenant du recul. Et en sortant de là, en sortant de cette retraite, j'ai commencé à donner un premier soin. Je suis rentrée à Paris et c'est là où j'ai vidé mon appartement, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu un maximum de choses et je suis repartie voyager. Et en fait, j'ai commencé une vie nomade à partir du moment où je suis rentrée du Népal. Et là, alors je ne peux pas te raconter tous les voyages parce qu'on en aurait pour une heure encore. Mais voilà, des voyages où j'ai rencontré, où je suis allée en Inde, je suis allée à Bali.
Donc toute seule à chaque fois, du coup, là, tu avais pris le goût
toute
de...
Toute seule, ouais, ce qui était pour moi complètement exceptionnel de voyager seule. Alors après, quand on voyage en sac à dos, dans le monde, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas tout seul et qu'on rencontre plein de gens. Donc finalement, c'était en effet sur l'impulse, j'étais seule à avoir pris cette décision, mais finalement... dans mes voyages, je rencontrais beaucoup de monde. Je rencontrais beaucoup de monde et j'étais rarement seule, pour être très franche. Les vrais moments de solitude que je pouvais avoir, c'était des moments en montagne ou des moments dans les monastères où j'étais en retraite silencieuse. Et donc là, forcément, t'es en contact uniquement avec toi-même. Donc c'est vraiment le silence et la solitude. Mais dans le voyage, non, j'étais assez rarement seule. Voilà, et donc commence une série de voyages incroyables qui m'ont complètement transformée et qui ont été magiques. Il y a eu entre autres Saint-Jacques de Compostelle. Je suis partie marcher 3 semaines entre la frontière espagnole et Compostelle. Là, j'ai eu une espèce de connexion incroyable avec les arbres où, au bout de 2 jours, je sentais une ouverture et je sentais que j'étais les arbres et les arbres étaient devenus moi, tu vois. Il n'y avait pas de différence entre moi et les arbres. Les arbres et moi, c'était la même chose. J'ai vraiment senti cette chose qui était très, 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 très forte, très puissante.
Et du coup, à partir de quand tu as commencé à faire à te reconvertir et professionnellement à te reprojeter sur un nouveau métier et que tu as construit du coup de toutes parts?
En fait, ça s'est fait tout seul. J'ai jamais décidé dans ma tête tu vas devenir sonothérapeute. C'est quelque chose, même si tu veux, ma tête me disait plutôt c'est pas un métier et donc ce sera jamais ton métier. C'est la vie qui m'a amenée à faire ça. J'ai pas vraiment eu le choix en fait. J'ai vraiment suivi l'élan de mon cœur et j'ai vraiment suivi là où la vie m'appelait. Tu vois, je me retrouve à nouveau au Népal quelques mois après avoir fait un vipassana. Tu sais, c'est les retraites silencieuses de 10 jours. Donc je reviens au Népal. Il y a eu Bali aussi où je m'étais formée en tant que prof de yoga. Enfin, il y a eu voilà des voyages assez significatifs. Et puis, il y a eu, entre autres, ce soin que cette personne que je retrouve à Katmandou, quelques mois après l'avoir rencontrée une première fois, c'était une femme hollandaise qui faisait un voyage pour faire circuler plutôt la tristesse liée au décès de son mari. Une femme très, très sympa, très, très belle, très douce. Et elle me dit, tu t'es formée au bol tibétain, c'est super, j'aimerais connaître. Donc, je lui fais un soin. À l'époque, j'appelais ça un massage. Et à la fin du massage, elle me dit « Mais c'est incroyable ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. » Elle me dit « Tu ne peux pas savoir le réconfort, tout ce que j'ai vécu au niveau des sensations de mon corps, mais également le réconfort que j'ai senti, des pensées qui se sont éclairées, qui m'ont laissée tranquille. » Elle me dit « Je me sens extrêmement lumineuse, je me sens extrêmement bien. » Elle me dit « Ce que tu m'as offert, ce n'était pas un massage, c'était un soin. » Et la suite de mon parcours a vraiment, comment dirais-je, renforcé cette idée de soin. Notamment, j'ai travaillé dans un centre de retraite de yoga en Inde, dédié aux touristes. Donc, j'avais des gens du monde entier qui venaient dans ce lieu pour faire du yoga pendant 10 jours. Ils venaient par période de 10 jours. Et moi, j'étais en charge de leur faire découvrir tout le programme de méditation et leur faire découvrir la méditation. J'avais déjà fait plusieurs retraites dans les monastères bouddhistes. J'avais fait un ou deux vipassana à l'époque. Et puis j'avais une pratique méditative assez intense. Et du coup, j'avais ce programme de méditation et en parallèle, je faisais des soins avec mes bols tibétains. En fait, ce qui a été incroyable, c'est que les 20 premières personnes auxquelles j'ai fait des soins, qui sont venues me voir pour avoir des soins, c'était des gens qui avaient des choses à dépasser dans leur vie que j'avais moi-même réussi à dépasser et à transformer. C'était comme un cadeau du ciel pour me dire, tu peux avoir confiance, sache que tu as la capacité, tu as les outils, tu as l'énergie aussi et la force pour pouvoir aider ces gens. Donc vas-y, c'était vraiment un message qui était très 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 clair. Et donc, à chaque fois, je me suis sentie très à l'aise du coup avec les gens, quelle que soit la difficulté qu'ils rencontraient dans leur vie à ce moment-là, quelle que soit la noirceur parfois hein, de ce qu'ils pouvaient endurer. Pour avoir moi-même dépassé ces montagnes-là, j'avais déjà fait le chemin. Et pour moi, le chemin était tout à fait réalisable et je n'avais qu'à leur indiquer et les aider, les guider dans ce cheminement-là. Et du coup, je me suis sentie tout de suite très très à l'aise. Et ça n'est que. Mais encore une fois, j'étais en Inde, j'étais dans un lieu de retraite de yoga, je n'avais pas envisagé d'y passer ma vie pour autant, et je ne pensais pas que ça pourrait être un métier en Occident. Je ne pensais pas que je pouvais importer ce métier dans ma vie classique, en tout cas celle que je connaissais à l'époque. Donc, je me souviens, je me retrouve, j'avais prévu, je repartais au Nicaragua et j'avais une escale de 3 semaines en France, à Paris. Avant de repartir au Nicaragua. Donc, je partais d'Inde et j'allais prendre mon avion à l'aéroport et je me retrouve assise à côté d'une femme. Il y avait une place dans l'aéroport où je pouvais m'asseoir. C'était à côté d'une femme qui se trouvait être française avec qui je discute et elle m'indique un lieu à Paris où que je pouvais louer comme ça à l'heure pour pouvoir offrir des bains sonores et des soins sonores à mes amis parce qu'en fait, j'avais très à cœur de partager ça à mes amis parisiens, je trouvais ça tellement génial, tout ce que j'avais vécu en Inde, à Bali, au Népal, qu'il fallait
Alors,
que
le bain
leur...
sonore, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a rien à voir avec. Enfin, on n'est pas dans. C'est que du son, il n'y a pas d'eau. C'est l'eau de notre
C'est
corps
ça.
qui vibre, mais il n'y a pas de.
Exactement. C'est ça. C'est ça. Et en fait, j'immerge les personnes dans de la vibration avec des bols tibétains, d'autres instruments aussi. Et du coup, je voulais faire découvrir ça à mes amis à Paris. À l'époque, il y a 7-8 ans, à Paris, personne ne connaissait ça. C'était pas du tout connu. Aux États-Unis, peut-être un petit peu, mais à Paris, pas du tout. Et donc, cette femme me donne les coordonnées de cette salle de yoga et de cette personne pour louer une salle à l'heure. Et donc, j'y vais, c'est dans le 11e à Paris. Et là, Léna, la propriétaire du studio de yoga, me voit arriver, mais comme la septième merveille du monde, en me disant, mais Marie, c'est génial, tu fais des bols tibétains, j'avais quelqu'un avant qui faisait ça, malheureusement, il est parti de Paris, du coup, je n'ai plus personne, est-ce que tu veux bien faire des ateliers avec moi, là, sur la fin de semaine? Moi, je fais le yoga, et puis toi, tu fais un bain sonore à la fin du yoga. Donc là, on a fait ça 3 jours d'affilée, salle comble. Chaque soir, salle comble, les gens étaient ravis, revenaient le lendemain et ils m'ont demandé des soins la semaine d'après. J'ai enchaîné toute une série de soins suite à ces 3 ateliers qu'on a fait chez cette personne-là. Et d'ailleurs, merci Léna, si tu m'écoutes, de m'avoir ouvert la porte de ton studio et de m'avoir du coup permis de prendre conscience que c'était possible d'en faire un métier et d'en vivre en France et à Paris. Parce que en fait, tout s'est déclenché à ce moment-là. Et donc j'ai fait une série de soins individuels, des choses incroyables. Je te passe le détail, mais
Tu peux les faire à
vraiment des.
distance, les soins?
Alors oui, je suis pas fan parce que j'aime le contact physique et voilà. Mais oui, en fait je l'ai découvert pendant le confinement, quand on était confinés. Des résultats incroyables à distance, en soins individuels et en soins de groupe aussi, où j'ai des femmes qui ont eu voilà, des réactions, des images, des sensations dans le corps et des sensations de libération qui étaient très puissantes aussi. Ouais. Après, je préfère Je préfère en vrai, en live, mais ouais, c'est possible. Ouais, c'est assez incroyable et c'est quelque chose que j'explore de plus en plus. C'est la connexion à la conscience et à la force de guérison, en fait. Ça nous dépasse, mais quand on se connecte à la bonne matrice, en fait, l'énergie de guérison n'a pas de limite géographique. Et c'est assez dingue. Et après, d'un point de vue purement pratique, en fait, avec de bons écouteurs et la personne vraiment lâche prise en fait avec le son, de la même façon que quand je suis avec mes bols tibétains en vrai. Voilà, il n'est pas rare que les gens soient s'endorment, comme lors d'une séance que je peux faire, soit vraiment ressentent la vibration, le son et le mouvement. À travers ce qu'elles entendent. Donc, ouais, ça fonctionne aussi bien à
Parce que
distance.
du coup, là, aujourd'hui, tes clients, ils sont où? Puisque tu vis plus, du coup, en France.
Ouais. Alors, les soins, là, j'ai repris doucement, tranquillement, avec le bouche à oreille en Espagne, là où je suis. Encore une fois, ça se fait un petit peu tout seul et naturellement. Voilà, là, j'ai pris pour la première fois de ma vie un petit cabinet. À Palma de Majorque, que j'aurai à la fin septembre, parce qu'il a encore en travaux. Mais avant, je faisais à domicile. Je faisais des soins à domicile, je me déplaçais avec tout mon matériel, ce qui m'a valu des maux de dos. Et j'ai vu que j'étais opérée l'année dernière d'un problème de dos. Je fais vraiment très, très attention. Donc voilà. Donc les soins, en fait, les soins, je ne communique pas dessus. Ça, c'est vraiment bouche à oreille. C'est comme quand j'ai vécu au Pays Basque pendant un petit moment. Et de la même façon, j'ai jamais fait de publicité sur les soins. Ça n'a été que du bouche à oreille. Et donc, je le fais comme ça parce que, alors, il faut se le dire, la sonothérapie, c'est quand même une pratique qui est très physique. On utilise des instruments qui sont lourds, hein, c'est 2, 3 kilos selon les bols qu'on utilise. Et donc, c'est quand même assez physique. Donc, contrairement à certaines pratiques où on peut enchaîner 5, 6 soins par jour, où tu as des gens qui vraiment font ça en cabinet à la chaîne, la sonothérapie, ça me paraît difficile d'enchaîner 5 ou 6 soins de sonothérapie chaque jour. Je pense que c'est très complémentaire. Moi, j'ai des personnes qui viennent en formation pour se former. Alors, certaines deviennent sonothérapeutes, mais très souvent quand même à côté d'une autre pratique. J'ai des kinés qui se forment à la sonothérapie, j'ai des hypnothérapeutes qui se forment à la sonothérapie, j'ai des sophrologues, j'ai des thérapeutes divers, des gens qui font du massage et qui complètent sur une dynamique plus énergétique. J'ai des gens qui font du coaching, de l'accompagnement. J'ai évidemment plein de profs de yoga. Et puis j'ai plein de gens aussi qui le font pour eux déjà, pour comprendre comment l'énergie fonctionne. Et il se passe des choses incroyables. Je donne depuis 6 ans, je forme les gens dans un lieu au Pays Basque, super. C'est des formations d'une semaine, chakra thérapie et sonothérapie. J'ai une femme qui a retrouvé l'odorat 32 ans après l'avoir perdu. À 16 ans, elle a perdu l'odorat. À 48 ans, elle sort de la formation et elle sentait à nouveau. Truc de fou. Parce que pendant la semaine, eh ben, les gens manipulent le son, ils reçoivent des bains sonores, ils en donnent aussi, donc ça circule dans les deux sens. Et puis je les fais chanter, je les fais danser, on va marcher dans la nature. Donc vraiment, c'est le mouvement sous toutes ses formes. Et l'énergétique, c'est ça en fait. Les problèmes, quels qu'ils soient, un problème physique, une maladie, quelle qu'elle soit, même le burn-out, hein, c'est quand ça circule pas, c'est quand ça tourne en boucle en fait, quand il n'y a pas un mouvement harmonieux, c'est là où les problèmes commencent. Et toutes les maladies, le cancer, c'est quand il y a un mouvement qui est anarchique, hein, au niveau des cellules. La constipation, ben voilà, c'est quand ça circule pas, c'est assez clair. Problème de veineux, c'est quand le mouvement du sang et des liquides intérieurs fonctionnent pas très très bien. Toutes les maladies, en fait, c'est une question de mouvement qui soit s'est arrêté, soit est dysfonctionnel, soit anarchique, et qu'il faut donc réharmoniser. Et donc, le son est un outil précieux pour ramener du mouvement là où il y a besoin qu'on en mette. Mais un mouvement harmonieux, pas n'importe lequel. Voilà, parce que la beauté des bols tibétains, c'est qu'ils vibrent à un tempo qui leur est propre. Chacun vibre sur une fréquence qui est propre, avec des notes extrêmement large en fait. Un bol tibétain, ce n'est pas une seule note, hein, c'est tout un panel d'harmoniques. Et à un moment donné, chaque bol va abandonner son tempo propre pour se mettre à la même fréquence les uns les autres. Ça veut dire que tout s'harmonise et la vibration, le son et la vibration de chacun des bols va devenir harmonique. Et le corps qui est au milieu, qui est un corps qui est fait d'eau, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, va profiter de cet effet d'osmose, cet effet osmotique, et va donc s'harmoniser par le son. Et le mouvement, là où ça pouvait être un petit peu bloqué à un endroit, va se remettre à circuler correctement.
Ah, moi, j'en ai fait deux bains de gong, deux, trois. Et le premier, ça a été une expérience mais incroyable, mais vraiment, enfin, je suis sortie du truc, j'ai eu l'impression de vivre des vies antérieures, enfin vraiment, je suis sortie, mais ouais, j'ai eu l'impression d'entendre des voix qui me parlaient, enfin des trucs, mais vraiment hyper, hyper puissant. Bon, la deuxième fois, j'étais pas dans mon élément et la vie m'a fait comprendre plus tard de pourquoi j'étais pas dans mon élément et bien ouverte au truc. Et là, j'y retourne là parce que à Marseille, mon ostéopathe qui est aussi prof de yoga donne des bains de gong, mais que les soirées où il y a la pleine lune. Donc, c'est une fois par mois. Et là, le prochain, je crois que c'est le 7 octobre, mais j'ai tellement hâte. Je me dis, mais c'est vraiment des moments incroyables.
C'est très, 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 très puissant. Mmh. Et le son, en fait, n'a pas de limite. Le son pénètre tous nos corps, en fait. Il se faufile partout. Et c'est ça qui lui donne son effet incroyable et très puissant. Le son, on ne peut pas l'empêcher d'aller là où il y a besoin d'aller. Et donc, s'il y a un blocage ou une circulation qui a besoin de se remettre en place au niveau du corps physique, émotionnel, psychique, spirituel ou énergétique, bah le son, il va savoir y aller. Voilà. Et donc, ça débloque énormément de choses. Il n'est pas rare que moi, j'ai des gens qui aient des émotions, qui s'expriment pendant un soin, un bain sonore, que les gens aient des prises de conscience. J'ai des personnes qui comprennent des traumatismes qu'ils ont eus dans l'enfance, qu'ils avaient cachés, qu'ils avaient mis sous le tapis, tu vois, et puis qui d'un coup ouvrent les yeux et me disent « mais merci, quoi, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça ». J'ai l'exemple d'un jeune homme qui vient me voir, il avait 34 ans, il dit « Marie, voilà, je viens te voir parce que je porte en moi une colère très très forte, je ne sais pas d'où elle vient, j'ai deux petits garçons de 8 et 11 ans ». Je suis en colère avec eux tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à gérer cette colère et ça me rend triste parce qu'il n'y a pas de raison pour que je me mette autant en colère. Et j'arrive pas à le gérer. Je sais pas d'où ça vient. Et il m'explique que il avait découvert son papa suicidé dans le salon de la maison. Et donc, ça avait été un traumatisme pour lui important, etc., qu'il avait déjà beaucoup avancé là-dessus, sur ce sujet-là, avec une psy. Bon, on fait la séance, et à la fin de la séance, il ouvre les yeux et il me dit « C'est incroyable, je viens de réaliser qu'en fait, ma maman me battait quand j'étais petit. Ma maman était violente avec moi et mon père. » Et en fait, sa maman, bah ça existe, les hommes battus, sa maman violentait son père et le violentait lui. Et en fait, c'était cette souffrance-là qu'il avait oubliée, qu'il avait mise sous le tapis. Et c'était son petit enfant intérieur qui n'avait pas guéri de cette souffrance et qui donc s'exprimait à travers la colère et qui l'exprimait auprès de ses propres petits-enfants, qui reflétaient, ses propres fils qui reflétaient son enfant intérieur. Quand il a compris ça, mais quel soulagement ! Il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas colère. On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les émotions. Il s'est rendu compte que il n'était pas cette colère. Ce n'était pas lui. C'était un état que portait encore, une vibration que portait encore son enfant à l'intérieur de lui. Quand il a compris ça, il a pu le faire circuler tout ça. Il a pu le comprendre. Il a pu se pardonner aussi cette colère. Il a pu comprendre des choses, probablement faire un j'aime pas le mot travail, mais en tout cas, des, pratiques libératoires vis-à-vis de sa maman aussi. Et il a pu libérer ça. Et quand on a la conscience de ce qui nous est arrivé, c'est plus facile de le gérer et puis de s'en sortir.
Ah bah, ça change tout, bien sûr.
Et des comme ça, des exemples comme ça, j'en ai plein. Et le son, en fait, permet quoi ? Il permet de mettre le cerveau en état quasiment d'hypnose, en fait, de ralentir la fréquence du cerveau, de mettre l'inconscient au même niveau que le conscient. Parce que la partie de notre cerveau, la partie de notre inconscient, elle vibre à une fréquence plus basse. Et notre cerveau qui réfléchit tout le temps, le petit hamster, là, celui-là, lui, il vibre à une fréquence plus haute. Quand j'arrive à attraper le cerveau qui réfléchit et le faire ralentir de fréquence grâce à l'effet des bols, ça va mettre les deux cerveaux au même niveau, à la même fréquence, et ça ouvre des portes entre l'un et l'autre. Ce qui permet de pouvoir accéder aux informations stockées et cachées profondément à l'arrière dans le cerveau, dans la partie inconsciente de notre cerveau. Et c'est là où il y a des prises de conscience incroyables. J'ai une jeune femme, une fois à Bruxelles, je faisais un grand bain sonore, il y avait plus de 60 personnes. Et j'ai une jeune femme à la fin qui me dit « Merci beaucoup ». Elle pleure de joie, en fait, à la fin, elle me dit « C'est incroyable ». Pendant la séance, en fait, ça fait des mois que je dois prendre une décision. J'ai une alternative, en fait, j'ai deux choix et je n'arrive pas à me décider. Et elle me dit pendant la séance, eh bien… c'est devenu clair, c'était ni l'une ni l'autre des décisions, c'était une troisième option en fait à laquelle je n'avais pas pensé, et elle a pu comme ça du coup se libérer de cette prise de décision qui était très difficile pour elle, et les choses sont devenues claires et limpides. Pourquoi ? Parce que le cerveau qui réfléchit a ralenti, et ça lui a permis d'accéder à la réponse qu'elle portait en elle, parce que on a les réponses à toutes nos questions, on a les réponses à tous nos problèmes. Le corps sait pourquoi il est malade, par exemple. Si le corps est malade, il y a une raison. C'est un message du corps pour nous signifier que quelque chose ne fonctionne pas ou que quelque chose ne va pas. Et c'est une indication, c'est un message, c'est un signal. Et donc, le corps, il sait pourquoi il s'est mis dans cet état-là. Si on lui pose la question, si on l'écoute, il va nous donner la réponse. Alors, ça peut être soit lié à un traumatisme lié à l'enfance, ça peut même être un traumatisme transgénérationnel. Peut-être que c'est même quelque chose qui est arrivé à une grand-mère ou une grand-tante et qui ne nous appartient pas, mais qui vibre à l'intérieur de nous et qui se transforme en maladie. Et tout ça, eh bien, on va pouvoir y avoir accès en débranchant le cerveau et en interrogeant une autre partie de nous-mêmes, parce que la réponse... Notre inconscient la connaît. Notre inconscient la connaît. Et donc, voilà, ça peut être très, très puissant. Il y a parfois des prises de conscience, des libérations qui se font, qui sont incroyables. Donc, voilà, des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais...
Donc là, aujourd'hui, dans tes activités, donc, tu as t'as la sonothérapie. Ouais. Mais avec plusieurs casquettes. Donc du coup, t'es professeur.
Alors, je suis professeur de yoga, même si ce que je partage le plus, c'est quand même vraiment, vraiment la sonothérapie. Donc aujourd'hui, je donne des soins, je forme les gens à la sonothérapie. Donc j'organise des sessions de formation en présentiel, soit une semaine où là, c'est vraiment chakra-thérapie, sonothérapie. On passe en revue tous les chakras. Ça, c'est encore un très, très beau sujet et c'est un très bel outil de navigation dans la vie. Voilà, je le propose aussi sur des formats plus courts de 3 jours où on complète avec un format en ligne. Donc, je forme aussi les gens en ligne. Donc, formation, il y a le pan formation, il y a le pan retraite aussi où les gens viennent avec moi 3-4 jours. Là, j'organise par exemple en novembre un séjour à Majorque sur mon île de 4 jours dans un lieu super où ça va remuer, ça va bouger, où je vais faire créer les gens. On va faire du yoga, bien sûr, de la méditation. On va danser, on va chanter et on va créer avec les instruments. C'est ouvert à tous, hein, c'est vraiment tout niveau. Donc, j'organise des retraites, tu vois, des moments comme ça où les gens viennent pour se faire du bien. Dans des lieux souvent super, parfois c'est au bord de la mer, dans les Landes. Voilà, je change de lieu assez régulièrement. J'organise également un trek au Népal 2 fois par an, au printemps et à l'automne. On part marcher au Népal, ça a été un peu le déclencheur de ce qui m'a fait énormément de bien, donc j'ai envie de le partager aux gens. Là, on repart du 1er au 15 novembre, ça va être encore une très 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 belle aventure, et avec un joli groupe de personnes qui s'est mis en place, qui s'est créé. Voilà, qu'est-ce que je fais également? J'écris. J'ai écrit un livre, Méditation avec le son. Donc, c'est un recueil de pratiques très simples qu'on peut faire à la maison en utilisant le son pour méditer, pour se faire du bien. On m'a suggéré un autre livre, donc ça va sûrement voir le jour aussi. Un autre éditeur m'a contacté, on m'a demandé d'écrire là aussi pour un magazine. Donc voilà, j'ai aussi une casquette auteur et c'est nouveau, mais un peu journalistique. Alors, sur des sujets qui me parlent, bien sûr, mais voilà. J'écris et puis on m'a demandé aussi de composer de la musique et de composer des sons qui soignent, qu'on a enregistrés, qui a été distribué par Sony Music. Donc, il y a des albums qui sont disponibles en ligne, des albums de sonothérapie et de bol tibétain. Ça a été une très belle aventure. Ça a été un très beau cadeau de la vie aussi, parce que pour le coup, je ne suis pas allée taper à leur porte. Et c'est eux qui se sont intéressés au sujet et à ce que je pouvais proposer. Donc, c'était une très, très belle aventure. Tout ça est disponible sur Spotify, Deezer.
Bah, je mettrai le lien
YouTube.
Sur le blog.
Ouais, c'est une bonne idée, en effet. Ouais. Et voilà, donc je suis un petit peu multicasquette. Tu vois, je suis un peu multicasquette. J'ai pris le parti de partager ce qui me faisait du bien, ce que j'aimais déjà. Je ne me force plus à quoi que ce soit. C'est-à-dire que je partage ce que j'aime partager à partir du moment où ça fait plaisir et du bien aux gens. Là, par exemple, depuis cette année, je propose également un programme en ligne avec des lives et des vidéos pour des personnes qui ont envie d'apprendre à jouer de la guitare facilement et à chanter en s'accompagnant la guitare, en chantant des mantras, tu vois. Donc là, j'ai un groupe d'une vingtaine de personnes qui m'a rejoint et c'est toute l'année. Donc c'est nouveau, tu vois. J'ai senti cet été que j'avais envie de partager ça. Je sais que quand j'attrape ma guitare, tu vois, ça me fait énormément de bien de chanter, et voilà.
C'est que chanter des mantras ou ça peut être chanter n'importe quoi
Alors, c'est chanter des mantras et du chant spontané. Alors, peut-être que l'année prochaine, je ferai un autre module sur chanter d'autres chansons, peut-être plus populaires, etc. Là, c'est plus en lien avec aussi ma culture et puis, tu vois, ce que j'ai fait, ce que je partage. Donc là, c'est vraiment mantras et chant spontané, c'est-à-dire trouver sa voix et autoriser sa voix à naviguer et à se faire plaisir, à se faire du bien. Mais en fait, par les mantras, c'est une très bonne façon de s'ouvrir, de commencer à apprendre la musique et la guitare parce que c'est des schémas répétitifs, c'est assez facile. Et très rapidement, en fait, on peut comprendre du coup ce que c'est que les changements d'accords, la position des mains, etc. Donc, c'est une bonne entrée en matière pour apprendre la guitare. Moi, c'est comme ça que j'ai appris la guitare, en fait, par les mantras. Donc voilà, donc tu vois, c'est très très varié. Tout ce que je propose est assez varié. Et c'est toujours en lien avec le son, avec la méditation, la conscience, le corps, le bien-être et la guérison d'une façon générale. Mais ça peut prendre plein plein de formes. Je propose aussi des séances de chakra danse, c'est-à-dire que les gens en ligne, pour le coup, je le fais lors des retraites que je propose aux gens, mais je le fais également en ligne. C'est-à-dire, c'est des morceaux que je choisis en fonction de l'énergie qui viennent activer dans le corps et qui vont venir activer l'énergie des sept chakras. Et je travaille beaucoup avec les éléments de nature, la terre, l'eau, le feu, l'air, la lumière, le son, l'espace. Et du coup, ça donne des playlists qui sont très complètes et qui permettent vraiment d'aller jouer avec les énergies tout en dansant et en se faisant plaisir.
Génial.
Voilà. Donc, j'aime bien quand c'est ludique. Je vais juste sortir de l'écran un petit instant. Il faut que j'aille brancher mon ordinateur. J'ai oublié de le faire. Mais on peut parler en même temps parce que j'ai un casque.
T'as les écouteurs.
Donc, voilà, exactement.
Comment t'écoutes ton intuition ?
Comment j'écoute mon intuition ? C'est une bonne question. J'écoute mon intuition déjà en me rendant compte quand je suis trop dans le mental. Ma première boussole, en fait, c'est de me dire, est-ce que là, t'es dans ta tête ou t'es dans ton cœur ? Et donc, moi, j'ai une tendance à... J'étais une très, très mauvaise élève de méditation. C'est quelque chose qui a été... C'est pour ça peut-être que je l'enseigne aujourd'hui, parce que pour moi, ça a été un challenge. Ça a été une forme, une source de guérison. Et aujourd'hui, un outil qui me permet de cultiver le bien-être et l'alignement, mais ça a été laborieux. Je ne peux pas dire que j'ai des facilités particulières à méditer. J'ai un cerveau qui a naturellement tendance à être hyperactif et créatif et aller dans tous les sens. Donc, comment j'écoute mon intuition? Eh bien, j'ai une petite technique très simple qui est que je ferme les yeux et je regarde en fait si je me concentre sur ce que je vois derrière l'écran de mes paupières fermées. Et si je vois mon troisième œil, alors je l'ai vu pour la première fois lors d'une séance de Watsu. Le Watsu, c'est une pratique qu'on fait dans l'eau et voilà, ça avait, j'étais dans un lâcher-prise tel qu'en fait, je me suis connectée pour la première fois de ma vie à mon troisième œil pendant cette séance. Et du coup, comme je connais le chemin, maintenant, je peux y retourner un peu quand je veux. Et justement, c'est ça le test. C'est-à-dire que je ferme les yeux. Si j'arrive à le voir, c'est-à-dire en ce qui concerne chez moi, c'est une forme de couleur ovale bleu indigo, une très, très jolie couleur comme ça. Si j'arrive à le voir quand je ferme les yeux, c'est que mon mental n'est pas embrouillé, c'est qu'il n'y a pas trop de larcène et que voilà, je ne suis pas trop dans le mental, donc tout va bien. Si je n'arrive pas à me connecter, si je n'arrive pas à voir mon troisième œil, c'est que j'ai sûrement un mental hyperactif. Et auquel cas, c'est que j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de respirer. Et là, en fait, je vais revenir me connecter à mon souffle, à ma respiration, à mon cœur, au chakra du cœur, c'est l'élément R. Je respire, je fais circuler l'énergie dans mon corps par le souffle et la respiration en venant positionner mon regard intérieur sur mes poumons, sur mon cœur. Et du coup, je fais descendre ma conscience, non pas dans ma tête, à tourner en boucle et à réfléchir à plein de trucs, mais sur mon chakra du cœur en respirant et en ramenant mon attention sur mon chakra du cœur. Et là, je vais pouvoir prendre mes décisions, m'orienter et me connecter à mon intuition à partir du moment où je suis connectée sur le plan médian, ce que j'appelle le plan médian, le chakra du cœur. Et là, en fait, les choses se mettent en place naturellement autour de moi. C'est assez dingue. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de projeter des choses, de projeter des projets ou d'imaginer des choses. D'ailleurs, si je le fais, souvent, ça m'emmène droit au mur ou vers des décisions qui ne sont pas liées à ma nature et à ce qui est bon pour moi. Quand je crée une société, par exemple, tu sais, c'était venu vraiment du mental à l'époque. Alors que tout le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai vendu ma société et que je me suis laissée guider par mon cœur, hein, tu vois, par... Eh bien, les choses se sont mises en place de façon merveilleuse, incroyable. Tu vois, tous les projets dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça n'a jamais été je veux écrire un bouquin. Ça n'a jamais été je veux créer de la musique ou j'ai envie d'être la star d'un clip qu'on va tourner sur un morceau d'un de mes albums. Jamais je me suis imaginée écrire un livre dans ma vie. Jamais je me suis imaginée créer de la musique. Être l'objet d'un clip musical, ni même être journaliste, ni même faire un travail journalistique, tu vois, qu'on vient de me demander là. Et donc, je crois qu'en fait, l'intuition, en tout cas en ce qui me concerne, hein, elle passe par le fait d'être connectée à mon souffle, à l'énergie du cœur, et à cultiver... à ne pas me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas, à répondre en fait à ce qui résonne juste dans mon cœur et dans mon corps. Tu vois, si par exemple, on me demande, on me propose quelque chose et que mon corps se crispe ou que mon cœur ne dit pas « ouais, c'est un grand oui », eh bien, je n'y vais pas. Et en fait, c'est ça mon intuition. En fait, je crois que mon intuition, mon compas, c'est mon corps et mon cœur. C'est par ça que je me laisse guider aujourd'hui et ça fonctionne plutôt bien.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Ah, à quel moment dans ma vie je me suis dit pourquoi pas moi ? Je pense que j'ai dû me le dire là, pour la première fois à cette époque, tu sais, où j'avais fait cette école de comédien. En me disant, mais finalement, s'il y a des gens dont c'est le métier qui réussissent à être comédien, tu vois, à en vivre, à en faire un métier qui va être utile pour eux, pour les autres aussi, et ben pourquoi pas moi ? tu vois. Et du coup, je m'étais autorisée à le faire, mais ce n'était pas dans une optique professionnelle, c'était plus une curiosité, une expérience que je voulais mener, mais en restant ouvert à cette possibilité-là. Au final, au bout d'un an, je me suis rendu compte que mon corps me disait « non, ce n'est pas pour toi ». Mais je t'avoue que ouais, je pense que je me le suis laissé résonner plusieurs fois. En plus, à l'époque, je côtoyais des stars du cinéma français, tu vois, donc dans ces moments de fête que je faisais. Donc, si tu veux, c'était réel. Si tu veux vivre à jouer la comédie, pour moi, finalement, c'était réel puisque j'avais des exemples concrets sous les yeux. Donc, ouais, pourquoi pas moi, tu vois. Donc, je vais expérimenter, je vais voir, je m'autorise. Et puis finalement, c'était pas pour moi. Mais en l'occurrence, pourquoi pas moi? Et après, je pense que c'est quelque chose que j'ai laissé ouvert, en fait, quand vraiment j'ai décidé d'écouter seulement mon cœur et de me laisser guider par mon cœur. Et d'arrêter d'écouter un peu trop ma tête qui me limitait, qui me mettait un peu des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, je crois que inconsciemment, j'ai dû me le répéter plusieurs fois. Ouais. La première fois, c'était à ce moment-là.
C'est quoi pour toi la réussite?
Je pense que la réussite, c'est être heureux. Alors, ça paraît un peu banal comme réponse, mais je pense que la réussite, c'est... ouais, c'est une petite phrase que je me répète souvent, c'est être en paix avec son passé, vivre intensément l'instant présent. Et puis regarder l'avenir avec confiance. Tu vois, je crois que c'est ça. C'est la vie est tellement pleine de surprises et dans les deux sens, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Je crois que la réussite, finalement, c'est d'accepter d'être dans l'instant présent, de se réjouir de ce qui est là, ici et maintenant. Tu vois, et... ouais, je crois que c'est ça, en fait. C'est tu vois, être dans l'apaisement, d'être en joie, de vivre ici et maintenant sans ressasser le passé et puis sans trop anticiper le futur et être dans l'accueil de ce qui se passe ici et maintenant. Et on réussit forcément, en fait, quand on est dans cet état d'esprit. Parce que du coup, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'angoisse. Quand on est dans l'ici et maintenant, pour moi, c'est ça la réussite. On est forcément heureux. Parce que ici et maintenant, tout va bien finalement. Et les problèmes ne sont liés qu'à nos ruminations ou les anticipations qu'on peut avoir du futur. Ouais, je crois que c'est ça. Vivre dans l'instant présent.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Waouh! Ouais, je crois qu'elle dirait waouh! Elle dirait. Je suis contente. Merci de m'avoir sorti de là, quoi. Merci de m'avoir sorti de là. Merci de m'avoir tendu la main. Merci de m'avoir permis de m'alléger, de sortir de ce monde de noirceur dans lequel j'étais à cet âge-là. Merci de m'avoir guidée vers la lumière et de m'avoir autorisée à exprimer la vraie couleur de mon âme. Merci de m'avoir libérée de tous les carcans sociaux, familiaux, culturels, marketing, religieux, politique, tout ce que tu veux. Merci de m'avoir libérée, merci de m'avoir montré ce chemin de guérison et ce chemin de libération. Ouais, je pense qu'elle me dirait merci, quoi. Ouais, je pense.
On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui dans cette nouvelle vie?
Ah, c'est drôle, mais je me suis pas posé cette question. Laisse-moi un petit peu la digérer, la faire tourner. J'ai pas la sensation d'avoir vraiment renoncé. J'ai pas la sensation d'avoir renoncé. J'ai pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. Ou d'avoir Non, ouais, c'est drôle, j'ai pas de sensation de renoncement pour le coup. Bien sûr, il faut faire des choix Écoute, je pêche un peu.
Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas.
Peut-être plus tard, mais je vais réfléchir, je vais plancher sur le sujet.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
Ça a été mon enfance. Ouais, ça a été mon enfance et le mal-être des personnes qui m'entouraient et que j'ai du coup vécu en direct et de très très près pour le coup. Donc j'ai eu une enfance assez grise, assez noire, ouais, jusqu'à ce que je parte de chez moi. Bon, ouais, je peux le dire, c'est pas un secret monumental, mais une maman dépressive, alcoolique, suicidaire. Donc voilà, des choses que j'ai vécues de plein fouet quand j'étais petite et qui font que j'ai très très vite endossé un rôle que j'aurais pas dû avoir, qu'on n'a pas quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et donc j'ai été adulte très très vite, j'étais plongée dans un monde de responsabilité assez rapidement. Et à voir des choses que j'aurais pas dû voir et à devoir gérer des choses que je n'aurais pas dû gérer parce que j'étais la dernière des enfants et la seule à être restée à la maison. Donc voilà, j'étais seule avec ma maman à devoir gérer tout ça. Et donc c'était voilà une enfance qui n'a pas été rose, mais qui a été source d'apprentissage et je pense qui m'a donné une force de résilience assez incroyable, qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je pense que je suis de nature introvertie, c'est assez clair, assez évident. Et je pense que tout ce qui m'est arrivé, enfin, indirectement, mais en tout cas ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi quand j'étais petite, m'a donné finalement une grande, grande force, une grande force pour rebondir, pour aller chercher la lumière. Pour aller, tu vois, finalement, me dire, mais finalement, t'as rien à perdre. Et vas-y, quoi. Vas-y, et fais-toi plaisir. Et fais des choses qui te font du bien. Fais des choses qui te plaisent. Et arrête d'avoir peur. Parce que les peurs qu'on a quand on a envie de changer de vie, c'est souvent des peurs matérielles liées à l'argent, à la survie. Et en fait, je crois que, voilà, l'enfance que j'ai eue m'a propulsée vers une recherche de libération, une recherche de lumière, une recherche de bien-être. Et peut-être que si je n'avais pas vécu ça avant, j'aurais eu un parcours très très différent. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais très malheureuse dans une vie qui ne me correspond pas. Donc finalement, je dis merci à cette vie que j'ai eue, je dis merci à la petite fille que j'étais d'avoir supporté, enduré tout ça. Parce qu'en fait, ça m'a donné envie d'entrer dans un chemin de guérison, dans un chemin de libération. Et c'est ce que je partage aujourd'hui. Et en fait, j'ai compris bien après que je crois que mon âme a été appelée sur cette terre par ma mère pour la guérir. Et elle me l'a dit d'ailleurs quelque part par des mots, il n'y a pas très très longtemps. Donc j'ai compris que même au départ de ma conception, la volonté de ma mère, parce que ma mère voulait un enfant, mais un troisième enfant, mais pas mon père, donc c'était vraiment une volonté très forte de ma mère. C'était pour lui permettre de lever le pied, de moins travailler, etc., etc. Donc de la sortir d'un espèce de burn-out latent, tu vois. Et ça, je l'ai compris, je l'ai su qu'après. Et en fait, j'étais un peu un enfant en médicaments quand je suis arrivée sur cette terre, c'était un peu ça. Et aujourd'hui, je me suis libérée un peu, de cette emprise, hein, quelque part, pour me dédier et utiliser cette énergie que je porte, cette énergie de guérison et de libération, la mettre à profit d'un plus grand nombre de personnes à travers le son et les pratiques de guérison que je partage et que j'offre autour de moi. Donc, ça a été une grande force et finalement, j'ai envie de remercier ma maman pour ce que j'ai vécu, même si vraiment ça n'a pas été rose et si ce n'est pas facile encore pour moi aujourd'hui. Mais c'est en même temps une grande, grande force que j'ai.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Je sais pas si je suis fière quelque part. C'est comme quand j'avais monté ma boîte, tout le monde me disait ouais, tu devrais être fière de toi. Ta boîte fonctionne super bien, etc. C'est génial. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment un sentiment de fierté que j'ai. J'ai un peu du mal à le définir comme de la fierté, pour être très très franche. Par contre, ouais, je dirais peut-être satisfaite, heureuse. Tu vois, plus que c'est pas tant une fierté, c'est plus une presque un soulagement ou une forme de ah, tu vois, de grande joie quoi, d'accomplissement ou c'est même pas de l'accomplissement, c'est même pas ça encore. C'est une espèce de joie de finalement m'être enfin rencontrée, d'être renée à moi-même, d'être en connexion avec l'essence de ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, j'ai connecté à mon essence, à ma nature de guérisseuse, tu vois. C'est un terme que, il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'utilisais pas, parce qu'il fait un peu peur, ce mot, tu vois. Il fait un petit peu peur, voilà, j'avais du mal à l'utiliser. Aujourd'hui, tu vois, je te le dis, les personnes qui nous écoutent vont l'entendre, et j'ai pas peur de l'assumer. Et en fait, je crois que quand on a touché à sa nature divine, à sa nature profonde, et quand on s'autorise à ce que ça devienne notre quotidien, que ça devienne notre mission de vie, moi, tu vois, aujourd'hui, je ne peux pas parler de travail, même si c'est beaucoup d'énergie, même s'il y a des moments où je suis fatiguée, parce que voilà, je n'ai pas la sensation de travailler. Tu vois, aujourd'hui, ce que je le fais avec une joie incroyable, en y mettant beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, mais beaucoup d'amour aussi, tu vois. Et aujourd'hui, j'utilise tout mon être. J'utilise mon corps, j'utilise mon cœur et j'utilise ma tête dans ce que je fais au quotidien pour les autres. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'utilisais que ma tête. Et aujourd'hui, j'ai vraiment reconnecté à toutes les composantes qui me caractérisent, tu vois. Et j'utilise l'entièreté de mon être. J'utilise toute mon énergie. Et ça fait vraiment, vraiment la différence. Et du coup, tu vois, c'est génial ces petits moments comme ça, ces moments d'interview. Merci beaucoup pour ça parce que ça me permet tu vois, de me retourner un petit peu sur les années qui viennent de passer et puis de faire un petit bilan parce qu'on ne prend pas souvent le temps de le faire. Donc, merci pour ça. Et tu vois, ça vibre comme au premier jour, comme au tout début, tu vois, de cette joie, en fait, d'avoir enfin touché du doigt, rencontré et m'autoriser à vibrer l'essence de ce que je suis, tu vois, ma nature profonde, ma nature divine. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde et à toutes les personnes qui nous écoutent. Vraiment, je vous souhaite de vous rencontrer et d'utiliser toute l'énergie qui vous caractérise dans votre quotidien, que ce soit vertueux pour vous, que ce soit vertueux pour les autres. Et on est sur cette terre pour ça, on est sur cette terre rien d'autre que pour ça, utiliser l'énergie qu'on porte, se laisser traverser par une énergie plus grande pour la mettre à profit du monde qui nous entoure. Et là, notre quotidien prend du sens. Là, notre quotidien prend un sens, moi aujourd'hui, qui n'avait pas avant. Et ça, c'est une grande satisfaction. Ça, c'est une grande, grande joie de tous les jours. Que je peux parfois oublier un peu dans le quotidien tu vois de ouais mais qui est là et qui est bien bien là et ouais donc ouais je vous souhaite de trouver de rencontrer ce chemin-là. Autorisez-vous à expérimenter des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir certes, mais qui vous mettent en joie aussi, parce que c'est différent. Le plaisir, c'est quelque chose de c'est ponctuel, hein. Le plaisir, c'est éphémère. C'est un début, ça a une fin. Donc la recherche de plaisir, elle est vaine au final, parce que c'est comme ça qu'on devient addict au chocolat, à l'alcool, à la cigarette et à la drogue. Donc recherchez la joie en toute chose. Accueillez la joie en toute chose. Autorisez-vous à faire au quotidien des choses qui vous mettent en joie, qui vous font vibrer sur le registre de la joie. Et dites-vous que au quotidien, on peut avoir une occupation, un métier, qui nous mettent en joie. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Moi, pendant toute mon enfance, l'idée qu'on me donnait du travail, d'ailleurs, le travail, ça vient de labeur, hein, ça vient de la souffrance. Le travail, ça devait pas forcément nous plaire. L'objectif du travail, c'était de gagner sa vie, avoir un statut social. Mais peu importe le chemin qu'on empruntait pour ça. Et puis, il ne devait pas y avoir forcément de satisfaction ou d'accomplissement hein, dans le travail. C'était vraiment une recherche financière, sécuritaire et sociétale. Et donc, Et en fait, je pense qu'en tout cas pour moi, ça a fonctionné, mais de sortir de ce schéma-là et de m'autoriser à faire des choses qui me mettent en joie a vraiment contribué à changer ma vie. Et on peut s'autoriser à avoir un métier, une occupation au quotidien qui nous mette en joie. Autorisez-vous, vous avez le droit, on est là pour ça. On est là pour ça.
Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup, tu aimerais donner aujourd'hui?
Ouais. Ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais petite, c'est « fais ce que t'aimes et fais le bien ». Autorise-toi à faire ce qui te plaît, autorise-toi à jouir de la vie, autorise-toi à profiter de chaque instant et tout est possible, tout est possible, tout est possible. Dans ma famille, on nous a toujours dit, c'est un grand truc, dans la famille, de toute façon, on n'est pas des sportifs, on n'est pas des artistes. C'était la grande légende familiale. Nous ne sommes pas des sportifs, nous ne sommes pas des artistes. Et tu vois, la vie m'amène à emmener des gens marcher dans l'Himalaya, à être prof de yoga, à créer de la musique. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, n'écoutez pas les voix extérieures. N'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire. Même quand on va voir des thérapeutes, faites attention à ce que vous mettez les thérapeutes dans la tête, hein. Le meilleur thérapeute, je crois, c'est celui qui va vous guider à l'intérieur de vous et qui va vous aider à entendre vous-même les bonnes réponses et les bonnes solutions, mais qui ne va pas vous donner des conseils finalement. Le conseil, il émane de quelqu'un d'extérieur à vous qui de toute façon n'est pas vous, donc il ne peut pas avoir la réponse. On peut avoir parfois des guidances, des avis, mais fiez-vous aux signes, fiez-vous à ce que vous ressentez dans votre corps, fiez-vous à ce que vous entendez dans votre cœur, faites-vous confiance et autorisez-vous surtout. Ouais.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Mais justement, en fait, je crois que... Ah si, celui dont je te parlais tout à l'heure, tiens, qui me revient, parce que sinon, globalement, les plus belles choses qui me soient arrivées, souvent, elles ne sont pas arrivées d'un conseil. Elles sont arrivées de gens qui sont venus sur ma voie, qui n'ont pas cherché à me donner un conseil, mais qui m'ont guidée autrement, en me disant, tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir avec mon corps et mon cœur, je me suis mise à écouter les signaux des gens que j'ai rencontrés et donc à aller vers là ou à aller vers là en fonction de la direction que mon corps et mon cœur avaient envie de prendre. Avant, j'écoutais les conseils des gens et c'est bien là le problème et c'est bien ça qui m'a fait faire des choix qui n'étaient pas les miens parce que j'écoutais les conseils qui venaient de la tête d'autres personnes. À partir du moment où ça vient de la tête de quelqu'un d'autre, ça vient de son ego, ça vient de son mental, ça vient de ses propres peurs aussi. Les gens nous conseillent bien souvent des choses en résonance avec leur propre peur ou leur propre expérience. Si à l'époque, tu vois, quand je devais changer de métier, j'avais souscrit à un programme en ligne d'une femme qui faisait du coaching pour trouver son métier idéal, son métier de rêve. Et les méthodes étaient toutes très intéressantes, mais c'était des méthodes qui faisaient appel à la réflexion, au mental. Et en fait, mon métier, il s'est dessiné au Népal en écoutant les signaux du monde qui m'entourait sans jamais décider que ça deviendrait mon métier. Qui, à ce moment-là, est-ce que cette coach à ce moment-là à Paris aurait pu me dire « Marie, tu vas devenir somothérapeute ?» Mais non, elle ne savait même pas ce que c'était, moi non plus. Tu vois, c'est là où je veux dire que les conseils, parfois, ils sont souvent limitatifs parce qu'en fait, ils se limitent au périmètre de connaissance de la personne qui le donne. Mais dans la vie, il peut se passer des choses bien plus grandes, bien plus... tellement différentes de ce qu'on peut imaginer avec notre tête. Moi-même, je ne savais même pas que ça existait.
Tu vois, justement, moi, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans. Et suite à mon burn-out, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et tout le monde m'a dit, fais un bilan de compétences et tout. Je dis, oui, mais moi, j'ai pas envie de... Je veux plus de cases, en fait. Je veux savoir ce qui me fait vibrer. Et du coup, j'ai créé ma propre méthode, en fait, pour permettre aux personnes d'écouter leur petite voix et de trouver, en fait, leur mission de vie. Et notamment, en découle leur métier. Mais en fait... C'est ce que je dis aux personnes, c'est qu'ils ne vont pas avoir un catalogue de métiers. C'est qu'en fait, justement, c'est le fait de les ouvrir, de voir les synchronicités et de pouvoir justement trouver eux-mêmes le métier qui est fait pour eux. Parce qu'en fait, finalement, ce métier, il n'existe peut-être pas. Moi, aujourd'hui, tu vois, mon métier, c'est quand on me dit « c'est quoi ton métier ?» Je dis à chaque fois « c'est compliqué » parce qu'en fait, moi, ma mission à moi, c'est d'aider les personnes à redonner du sens dans leur vie. Et le moyen, ça va être le livre, le podcast, le bilan de compétences de nouvelle génération. Mais en fait, en soi, je n'ai pas de métier. C'est comme toi, tu as été multicasquette. Et on évolue dans une société où il faut rentrer dans une case de tes directrices marketing, dans ça. Et en fait, le travail que j'incite toutes les personnes à mener, c'est trouver votre why, c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi votre sens, votre mission de vie. C'est après... où tu vas te dire, ok, tel métier va pouvoir m'aider à y répondre, mais c'est de partir du why, en fait.
Exactement. Mmh. Et puis, encore une fois, ce que je ressens dans mon corps et dans mon cœur.
Bien sûr, c'est écouter son corps parce que le corps, il sait mieux que nous.
Exactement. Mmh. Et puis, il a la réponse, donc c'est se permettre. Moi, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui viennent des moments de vie où ils sont un petit peu perdus, pareil, des burn-out, des choses comme ça qui sont dans des phases de vie, de remise en question et ces phases que j'ai connues pour avoir fait de burn-out pour le coup. Et en fait, je leur dis, mais laissez-vous tranquille. La réponse, vous n'allez pas la trouver comme ça. En fait, ce métier idéal, c'est vos cellules qui savent. Ce n'est pas votre tête. Et toi-même, là, tout de suite, tu ne peux pas mettre un nom sur ce métier-là parce que peut-être qu'il n'existe pas encore. Peut-être que c'est un patchwork de plusieurs choses, peut-être, voilà. Donc, aujourd'hui, plus tu vas y réfléchir avec ta tête, moins tu vas y arriver. Alors que pourtant, ton corps, il sait d'où émerge ton énergie et ce pourquoi tu es là sur cette terre. On a tous une énergie qui nous est propre et on a tous quelque chose à donner et à recevoir aussi, qui est propre à l'énergie qu'on porte. Et en fait, plus on va se connaître, plus on va s'écouter, apprendre à s'écouter, et plus on va être en contact avec ce qui nous fait du bien. Donc, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis la plupart du temps, les gens ont un an et demi, 2 ans de chômage. C'est pour ça que je dis vive la France assez souvent, parce que quand même, ce sont des belles opportunités qu'on n'a pas dans d'autres pays. Prenez ce temps pour respirer, pour expérimenter, formez-vous, faites des formations, testez des choses, testez des outils. Peu importe si ces formations, vous en faites quelque chose après ou pas.
En tout cas, t'apprends des choses.
T'apprends des choses. Avant de partir au Népal, je me suis formée pendant un an au Feng Shui. J'étais intéressée par la décoration et l'énergie dans l'habitat. Et j'ai fait une formation assez longue sur un an. C'était pas toute l'année, mais c'était une semaine tous les mois et demi pendant un an. Et bon, j'en ai pas fait grand-chose au final. Ça n'a pas été mon métier. J'ai découvert complètement... le hasard n'existait pas, mais en tout cas... sans le décider, j'ai découvert la sonothérapie au Népal qui est devenue mon métier par la suite. Mais il m'en reste aujourd'hui des choses sur le Feng Shui et des choses que je peux utiliser, même si ce n'est pas devenu mon métier. Chaque expérience est riche. Autorisez-vous à expérimenter des choses, à vous former sur des choses qui vous attirent sans que ça devienne forcément un métier tout de suite après. Autorisez-vous à échouer, même si on n'échoue pas. C'est pas parce que tu te formes à quelque chose et que ça ne devient pas ton métier derrière que tu as échoué. Tu auras appris, tu auras assimilé des connaissances. Donc, ouvrez-vous, apprenez, découvrez, soyez curieux. dirigez-vous par vers des choses qui vous appellent, soyez à l'écoute des choses autour de vous, ouvrez les yeux, ouvrez tous les pores de votre peau et voyez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Et expérimentez-le, faites-le une fois, deux fois, deux fois, formez-vous et puis vous allez voir à un moment donné, les choses vont se mettre en place toutes seules, mais ça passe par le fait de s'autoriser.
Bien ouais, souvent, puis lâcher prise, ouais, parce que tu vois, je vois une de mes clientes qui me disait, elle m'envoie un message un jour en me disant, mais Charlotte, j'y arrive pas, je tourne en rond, j'ai lâche-toi, lâche prise, va te promener, arrête d'y penser, et tu vas voir, ça va arriver. Et en effet, elle a lâché prise, elle s'est lâchée la grappe, elle s'est auto-lâchée la grappe, et c'est arrivé, et elle m'a dit, mais en fait, c'était juste une évidence, mais c'est juste que j'étais tellement dans le mental que du coup, non, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous ?
Un conseil de lecture, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Alors, ouais, je pense par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, un livre, alors c'est très pratico-pratique, hein, c'est une méthode, voilà, c'est pas un livre très romantique, mais pour le coup qui m'a très, très, pas mal aidée. C'est un livre qui s'appelle « Devenez qui vous êtes ». J'ai oublié son nom, le nom de l'auteur. J'ai lu ça il y a très très longtemps. C'est assez intéressant, ça correspondait à l'époque à une façon que j'avais de penser.
C'est Brigitte André.
Alors non. Devenez qui vous êtes.
Devenez qui vous êtes, c'est Brigitte André. Ah, sinon tu as Paul Pironet et François Roux.
Ah ben non.
Devenez qui vous êtes avec les outils incroyable. De la PNL.
Devenez ce que vous êtes, pardon.
Ah.
À quelques mots près, ça change tout. C'est de ça, Nicolas ça Poupin. Okay. Ça change tout. Devenez ce que vous êtes. Et donc, voilà, ça reste assez rationnel, assez cartésien comme méthode, mais voilà, il explique différentes choses pour se réorienter, trouver un petit peu ses aspirations, etc. Ça a été le premier bouquin, je crois, que j'ai lu à ce moment de changement de vie, qui a ouvert certaines portes. Ça n'a pas été une révolution, ma grande révolution. Après, moi, c'est quand j'ai lâché prise que j'ai commencé à voyager et que j'ai compris, qu'il fallait que je m'autorise à expérimenter. Et c'est passé par le voyage. Mais tout le monde n'est pas obligé de partir 7 ans à l'autre bout du monde dans les Himalayas pour se rencontrer. Je pense qu'on peut faire de très, très belles découvertes de soi aussi en restant à la maison. Il y a plein de façons. C'est peut-être pas un bouquin que je recommanderais. C'est peut-être plus une lecture spirituelle et énergétique que j'ai découverte il y a quelques années, qui est une guidance incroyable que je recommande vraiment à tout le monde. C'est le Human Design. Je ne sais pas si tu connais le Human Design. Tu connais, ouais. C'est vraiment une pratique. Alors, c'est voilà, pour les très cartésiens, quand on me demande l'origine, voilà, je me dis bon, la personne ne va pas accrocher. C'est un petit peu comme l'astrologie.
Il y a une lecture parce que moi, je connais la méthode globale entre guillemets, mais il y a une lecture particulière que tu recommandes ?
Alors, un livre particulier, non.
Ouais, un livre ou non. Non.
C'est plus se faire faire une lecture par quelqu'un de compétent. D'accord. Qui saura vous dire votre profil. Okay. Non, je n'ai pas lu à ce sujet-là. J'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé. J'ai moi-même lu, mais sur Internet, des choses à droite à gauche que j'ai grappillées. Donc, je n'ai pas lu un livre en particulier. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, mais je n'ai pas lu un livre en particulier. Par contre, ouais, c'est vraiment une méthode. Intéressez-y-vous parce que ça permet de comprendre... comment est-ce qu'on fonctionne en fait ? Comment notre énergie fonctionne et quelles sont les stratégies de vie qui sont adaptées par rapport à la prise de décision, par rapport à la guidance d'une façon générale dans la vie. Donc ça, très utile. Moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré en fait. Je n'ai pas eu besoin de lire ça parce que je l'ai vécu par mes voyages, par la méditation, par...
Tu l'as expérimenté.
Je l'ai expérimenté avant de le découvrir. Et quand on m'a fait ma première lecture, en fait, ça m'a permis de mettre des mots et un concept sur quelque chose que j'avais déjà, en fait, compris dans mon corps et dans mes cellules. Mais on peut faire, du coup, le chemin inverse et comprendre des choses par quelqu'un qui nous guide et qui nous donne cette lecture. Et du coup, ça va nous permettre de réaxer notre comportement, notre façon de répondre aux événements de la vie, façon plus appropriée en fonction de notre énergie individuelle. Donc,
on a été super bavardes. Est-ce que, à qui tu as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Merci et pourquoi ? Oh, il y a tellement de gens sur mon parcours qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont guidée, qui m'ont... Il y a tellement de personnes, il faudrait que j'en fasse une liste. Ouais, il faudrait que j'en fasse une liste. Il y a eu cette première femme qui m'a fait prendre conscience que ce n'était pas des massages que je faisais, que c'était des vrais soins profonds de guérison. Il y a eu cette autre femme qui m'a... quand je suis arrivée en Inde, qui m'a dit « Tiens, un tel... » Elle m'avait retrouvée sur Facebook après 6 mois en Inde. Et puis, on était au même endroit. Et puis, elle me dit « Tiens, il y a Alpesh là-bas. Il a un deuxième studio de yoga. Il a besoin d'un prof de yoga. » Et bon, bref, elle m'a orientée au bon endroit. Il y a eu... En fait, j'ai rencontré... Et c'est souvent des femmes, je me rends compte, j'ai rencontré... des femmes qui ont été comme des anges sur mon chemin, comme des femmes qui ont su lire dans... Il y a eu Marjorie qui est venue à une formation de sonothérapie au Pays Basque et qui par la suite, c'est elle qui m'a ouvert les portes de son mari qui est éditeur de musique, qui lui-même m'a fait rencontrer Sony Music et on a fait comme ça des albums de musique et un clip exceptionnel. Parce qu'en fait, elle a découvert pendant la semaine de sonothérapie un monde que je lui offrais, qu'elle avait envie de mettre en image et qu'elle avait envie de graver. Donc, on s'est retrouvés ensuite à Paris à faire ces projets-là. Et donc, ça a été des femmes à chaque fois qui m'ont orientée au bon endroit en me guidant. C'était pas des conseils, tu vois ce que je veux dire ? Ça a été plutôt des guides. C'est des personnes qui ont su lire dans mon énergie, qui ont su comprendre de quoi mon énergie était faite et qui ont su m'emmener là où il fallait que je sois, à tel endroit, à tel moment. Donc, c'est toutes ces femmes, parce que il doit bien y avoir quelques hommes quand même dans ce parcours. Je vais faire la liste. Mais là, tu vois, c'est trois femmes, j'ai trois visages qui me viennent. Et c'est ces femmes-là, ces personnes-là que j'ai envie de remercier parce qu'elles ont su, à un moment donné, me guider. C'était un petit peu comme un parcours, comme une chasse au trésor. C'était une grande chasse au trésor. Et plutôt que d'avoir des mots cachés sous une pierre ou dans un tronc d'arbre, tu vois, bah c'est des personnes qui, sur mon cheminement, m'ont donné des indications pour finalement avancer vers moi-même et ce que j'avais à offrir au monde.
Un grand, grand, grand merci, Marie, pour tout ce partage d'expérience, tout ça. Je mettrai les liens, du coup, vers ton site pour pouvoir permettre aux personnes qui veulent en savoir plus, découvrir ta musique, découvrir tes retraites. Vraiment un immense merci.
Merci à toi, Charlotte, pour ton invitation.
Je dépasse jamais les 2 heures. Donc là, bon, on a à 2h10, mais j'ai dû te couper, mais on aurait pu y passer 4 heures ensemble.
Ouais, il y a pas mal de choses en effet et voilà, j'étais ravie de vous partager tout ça et un grand, ouais, vraiment ravie de te rencontrer aussi, alors en digital, en ligne, à distance, mais la vibration est bien là et mon prochain passage à Marseille, j'hésiterai pas à te faire un petit coucou.
Je compte sur toi.
Elle y habite encore, donc voilà, et je te donnerai quelques noms de personnes aussi si tu aimes la sonothérapie, le son, etc.
Avec grand plaisir. Voilà, la musique, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Donc, avec grand, grand, grand plaisir.
Génial. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci, Marie.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine.